Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour le podcast de la semaine, le numéro 496, avec mes quelques acolytes à côté là, dont Johnny One qui est en train de se moucher, ou qui est sur le point de se moucher. Voilà, vous l'avez entendu, c'était lui,
qui
c'était Johnny One, qui se présente un peu bizarrement, mais c'est comme ça. Ça
va, Johnny One? Balance tes mouchoirs. Non mais Johnny, tu balances tes mouchoirs. Non,
c'est un porc, ce mec, t'es un putain.
Je ramasserai
de porcelain.
Mais tu ramasses, c'est foutu, ça y est, la pièce elle est contaminée.
Ah, là, non, moi je touche pas à ça, je vous le dis tout de suite. Alors il y a Plume aussi évidemment,
absolument,
qui est en train de d'engueuler Johnny One, et Camille.
Hello.
Notre spécialiste histoire qui va vous parler de plein de choses intéressantes.
Exactement.
Tout à l'heure. Alors justement, quels sont les thèmes de la semaine?
Bah, c'est à toi de le lire.
Exactement, c'est
à
moi de
le
dire.
Moi, j'en ai plus rien à foutre. Alors, je te le dis tout de suite.
C'est très
là,
simple.
C'est ton job maintenant.
Et bon, évidemment, il y aura le win, le fail. Et il y aura aussi les 10 ans sur Gameblog, comme toujours. Le thème numéro 1, Mortal Kombat 11, avec Johnny One, qui l'a retourné dans tous les sens, qui l'a fatalisé, tout ce que vous voulez, qui l'a pulvérisé même. On aura aussi Control pour le thème numéro 2, avec Plume, qui, pareil, l'a vu il n'y a pas longtemps et qui va nous en dire plein de choses super importantes.
Oh oui.
Et intéressantes.
Oh là, oui.
Et ensuite, le thème numéro 3, il y aura deux jeux dans le thème numéro 3. Il y aura Anno 1800 plus World War Z. Donc ça, c'est deux jeux que Camille a pu tester.
Exactement.
Et voilà, il va nous en dire aussi pas mal. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pourri? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et évidemment, on n'oubliera pas l'anniversaire, les hors-jeux, n'est-ce pas?
Les hors-jeux, tiens.
Le ou les hors-jeux.
Ah, ça y est, tu spoil dès le début, toi.
Exactement. On verra comment ça se passera tout à l'heure. Alors, on commence évidemment par le win, n'est-ce pas? Ça, c'est Plume.
Ouais, absolument.
C'est quoi le win de la semaine?
Alors, le win de la semaine, c'est Ubisoft, tout simplement. Parce que vous le savez, la semaine dernière, Notre-Dame de Paris a malheureusement été consumée par les flammes.
Les flammes de l'enfer, même.
La toiture de Notre-Dame de Paris.
Ouais, la toiture, mais quand même une partie aussi de l'édifice qui n'est pas toujours sécurisée. C'est quand même quelque chose de très triste pour notre patrimoine et pour l'histoire de France de manière générale. Et en plus des dons que vous savez, qui s'élèvent à plus d'un milliard d'euros maintenant,
des
de la part de,
même,
de familles comme les Bettencourt, les Pinot, et j'ai oublié les troisièmes.
Et les Printemps Redoute? Non, c'est pas ça.
Ouais,
on disait pas Pinot Printemps Redoute à une époque?
Oh là, franchement, j'en ai aucune idée. Ah,
tu
poses une colle là. Bref, en plus des plus grandes fortunes de France qui ont accouru
aussi
pour évidemment aider à la reconstruction en 5 ans.
Non, ça c'est impossible.
C'est
impossible.
Eh bien, il y a Ubisoft aussi qui a décidé d'y aller de son geste. L'entreprise d'Yves Guillemot a d'abord voulu offrir Assassin's Creed Unity, vous savez, l'épisode qui se passe pendant la Révolution française, pour avoir l'occasion de laisser aux joueurs la possibilité de rentrer à l'intérieur de Notre-Dame, de visiter de manière virtuelle, mais néanmoins plutôt fidèle, la cathédrale de Paris.
Exact.
Et au passage, en même temps, eh bien, d'apporter aussi une contribution monétaire à cette restauration qui, on l'espère, va commencer bientôt à hauteur de 500 000 euros, ce qui est quand même une belle somme. Et donc, pour ça, je pense qu'Ubisoft, effectivement, méritait le win de la semaine. Parce
un petit coup de chapeau.
Personne n'oblige Ubi à faire ça.
Alors bien sûr, on pourra toujours dire que ça fait un coup de com, machin, tout ça. Oui, forcément.
Mais tout le
monde
ils
l'ont quand même fait. Voilà.
C'est, je veux dire, à ce moment-là.
Ah, Johnny One, j'étais sûr que t'allais dire ça.
C'est,
toi. C'est un bon coup de com.
C'est clairement un coup de com. Quand tu regardes que en plus la version qui te donne, c'est la version PC où t'es obligé de
La version PC.
Non, c'est pas ça.
Ouais,
t'es obligé de passer par leur store.
Bah,
voilà.
Forcément. Oui.
Tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait créer des comptes sur notre boutique. Puis après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir acheter des jeux chez nous.
Mais toi, tu vois le mal partout, en fait, non?
Mais après, c'est normal, on va dire que c'est gagnant-gagnant, quoi, quelque part.
Ouais, voilà, non, mais c'est bien.
En tout cas, ils l'ont fait. Voilà,
voilà, c'est bien vu de leur part de l'avoir fait, exactement. Surtout qu'en plus, ils ont un jeu qui s'y prête dans leur catalogue. Donc, offrir le jeu, ok, vas-y, c'est cool. Mais ouais, non, clairement, il y a un peu de promotion derrière tout ça. C'est pas totalement désintéressé.
On a vu plus dégueulasse, franchement.
Mais oui, voilà, il y a pire que ça.
En tout cas, ça a bien marché ce coup-là, parce que à tel point qu'ils avaient pas assez de serveurs, en fait, pour faire tourner. Accueillir le nombre de jeux en fait qui sont arrivés, les vagues massives.
En fait, ça se trouve, ils ont perdu encore plus d'argent en faisant ça parce que
ils
ont dû payer les serveurs.
Ça coûte tellement cher d'ouvrir des nouveaux serveurs que...
et puis de les maintenir à flot, etc.
C'est ça,
etc. Oui, effectivement.
Oui, voilà. Puis ils s'en plaignent pas, ils disent pas, nous on l'a donné pour Notre-Dame, aidez-nous pour les serveurs, faites des dons ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc je pense qu'on peut quand même.
C'est un joli win quand même.
Saluer l'initiative.
À coup de com, un joli win.
Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc il y a énormément de dons qui ont été récoltés, voilà, et on continue encore aujourd'hui de nous,
de nous demander.
C'est-à-dire, ouais, c'est un petit coup de gueule, hein, les gens de tous les revendeurs en fait.
Les gens de tout pays.
C'est bon, stop maintenant. Il y a un milliard qui a été donné, donc c'est plus la peine d'essayer de me ponctionner un euro quand je vais faire mes courses pour Notre-Dame. Et l'euro, le pire, c'est que ça aurait été pour la fin de mon monde, je l'aurais donné quoi.
Exactement. Voilà.
Donc c'est bon, on peut arrêter maintenant.
On peut arrêter, c'est bon, tout à fait. Je crois qu'il y a assez de sous pour 25 générations de Notre-Dame.
Voilà, exactement. Après, ils vont en construire une en face, tu
sais.
Là, ils vont refaire la même à la place du tribunal qui sert plus à rien, tu sais.
Exactement. Tout à fait. Bon, après ce win Notre-Damiesque, Nostradamien même, je dirais. Le fail avec ce cher Camille, n'est-ce pas ?
Et ça concerne Witcraft, donc on a pu tester ici même sur Gameblog, c'est ce cher Tiger qui l'avait testé, qui est un jeu d'Evolver dans lequel on doit, un peu comme son nom l'indique, s'occuper de plantation de cannabis, en fait du business de plantation de cannabis.
Un jeu de gestion.
Exactement, jeu de gestion. Et bien le jeu a fait, on va dire, un scandale sur les réseaux sociaux, à tort ou à raison... On sera pas là pour juger, mais en tout cas ce qui s'est passé c'est pas forcément sympa pour le studio, puisque YouTube, qui sont déjà très frileux déjà de base pour tout ce qui est contenu, et pas forcément frileux pour les bonnes choses, hein.
Quand ça coupe des têtes ou des trucs
comme ça, ça va aussi, hein. C'est comme Facebook en fait, hein. Ouais, c'est bon,
Et donc ils ont démonétisé toutes les vidéos qui pouvaient concerner ce jeu, et démonétisé toutes les vidéos de youtubeurs qui faisaient la promotion entre guillemets du jeu. Et donc comme tu l'as très bien justement dit, sur YouTube on peut trouver de tout, on peut trouver même des vidéos de Daesh, il y a pas encore si longtemps, c'est pas censuré. Par contre un jeu de gestion, surtout au design cartoon, lui est directement censuré.
Mais c'est de la drogue.
Non mais justement, ça a été précisé, ce n'est pas si le jeu ne fait pas la promotion de la
exactement.
Drogue. Le jeu a un côté très politique où il t'explique les enjeux de ce marché, etc. Et aussi te fait clairement comprendre que la consommation de drogue n'est pas bonne.
C'est mal, vous voyez.
Et le même problème a été reporté sur Instagram où les différents contenus affiliés au jeu ont été censurés et démonétisés. Et dans ce mouvement, il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui ont décidé quand même malgré tout de présenter le jeu. Et Devolver s'est montré à 10 chapeaux. Merci les youtubeurs de quand même parler de ce jeu. Malgré tout,
même si vous gagnerez pas un centime,
ils ont quand même mis beaucoup de gueule. Alors je vous lis le message tel quel qui a été posté sur Twitter par Devolver, qui dit: c'est clairement le jeu que nous avons eu le plus de mal à marketer, et c'est peu de le dire. Ça a été un putain de cauchemar. Le fait que nous soyons toujours aussi effrayés par ce sujet, plus que par les simulateurs de meurtre que l'on peut promouvoir comme on veut, c'est choquant.
Voilà. Ils ont pas tort. Hein,
ils ont pas tort, puisque c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment prôner beaucoup de choses. Et dès que ça touche la drogue, ça y est, on lève les mains au ciel.
C'est le matin,
une fausse morale.
C'est ça. Il y a une morale en fait qui est vraiment très étrange, qui est un peu. Qui est un peu renversé, puisqu'il y a encore 50 ans dans le cinéma c'était l'alcool, la violence et le sexe qui étaient un peu prohibés, et là c'est tout l'inverse en fait. Tout ce qui était c'est vraiment très étrange quoi.
Regarde ce qui passe sur TF1 ou TMC à 18h, hein.
Oui.
Devolver en tout cas ils ont bien répondu, ils ont balancé une petite vidéo la semaine dernière, une vidéo live action avec la présentatrice de leur conférence E3 qui joue à l'intérieur.
Tout à fait.
Et c'est bien que la vidéo est complètement con et très drôle.
Bah comme toujours.
Et surtout en dessous, allez-y, démonétisez-moi ça. Écrit en cap. J'ai trouvé ça plutôt sympa.
C'était bien.
Mais c'est vrai que le débat autour de ça, il y a quand même des états dans lesquels c'est dépénalisé. On connaît les vertus thérapeutiques chez certaines personnes qui sont très malade qui
ça fait
ça
du bien,
soulage quoi. Donc il y a un moment
c'est
aussi
leur donne
où...
faim en fait, surtout
de quoi
ça leur donne faim,
du coup ils mangent et
un
ils
des
guérissent,
effets
c'est ça
de la weed, c'est ouais, puis... te donner la
je sais pas, moi j'ai jamais essayé, je peux pas vous dire.
Et du coup ces gens là qui ont un cancer ou d'autres maladies, le sida, des choses comme ça, qui n'ont pas d'appétit,
donc ils prennent des forces
ils fument même et du coup aussi, ça leur donne envie de manger en fait, tout simplement.
Et comme le jeu ne traite même pas de ça, c'est juste de la gestion. Je pourrais essayer de savoir à quel moment, quand t'es dans l'illégalité ou dans la légalité, tu peux te lancer dans un business comme ça. Enfin bon, bref, enfin, c'est assez ridicule.
Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu de démonétisation si ça avait été la gestion d'armes nucléaires ou des choses comme ça quoi.
Oh, bon, des jeux de nucléarisation, je m'en rappelle, j'ai encore Nuclear War sur Amiga, où tu pouvais jouer l'Ayatollah Khomeini.
Bah oui,
les mœurs sont changées.
Mikhail Gorbatchev,
les
mœurs
sont changées, un jeu comme ça, je suis pas sûr qu'il passe.
Ou si tu devais gérer une cave à vin géante.
Oh bah alors là,
c'est promotion.
Là on a les ministres qui montent au créneau, je pense même, hein, carrément.
Oui, c'est une belle opportunité, effectivement. Mm. Bon bref, voilà, bon, c'était le fail de la semaine, effectivement. Ce fameux Witchcraft que Devolver a eu du mal à marketer, comme ils disent. Tout à fait. Eh bien, mon cher Plume, maintenant, mes chers amis, nous allons passer maintenant à Il y a 10 ans sur Gameblog.
Oh.
Donc
eh ben c'est parti, il y a 10 ans sur Gameblog, Prime.
Ouais, il y a 10 ans sur Gameblog, et ben écoutez, j'ai sélectionné 3 news qui sont parues il y a 10 ans, à peu près dans les mêmes eaux que la diffusion de ce podcast.
Quelle classe.
La première, c'était Square Enix. C'était Yoichi Wada qui poussait un petit peu un coup de gueule du côté de chez Games Industry.
C'est vrai.
Parce qu'à l'époque, il se plaignait un petit peu de la lenteur avec laquelle eh bien, les jeux étaient produits chez Square Enix. Hein, il n'était pas très content. Le président de Square Enix, il disait, nous, Square Enix, nous avons un problème, ça nous prend trop de temps pour produire un jeu.
Nous sommes trop lents.
Voilà, exactement, c'est ce qu'il disait. Et effectivement, quand on voit que Final Fantasy XIII à l'époque prenait 4 ans de développement et que bah, Versus 13
Versus
finalement
13,
devenu 15, Final Fantasy XV
était, Kingdom Hearts 3 déjà en développement,
ouais. Ouais, Kingdom Hearts 3 qui a pris on ne sait pas combien d'années. Après il y a des productions évidemment qui aujourd'hui vont un peu plus vite, hein, oui. Notamment on pense à Octopath Traveler, si ce n'est pour citer que lui. FF7 Remake évidemment aussi prend un peu beaucoup de temps par rapport à son annonce.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il avait pas tort à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui aussi les moyens technologiques sont un peu plus simples d'accès pour pouvoir faire des choses rapidement, surtout passer à des moteurs un peu plus sympathiques. Mm-hmm. Donc voilà, c'était ce que pensait Yoichi Wada il y a 10 ans. Ça tombe bien parce que la deuxième news, ça parle de FF13 justement,
Final Fantasy
13, qui il y a 10 ans, et ben sortait sa démo sur PlayStation 3 et on découvrait une semaine plus tard, tout simplement, que grâce à cette démo, eh bien, la PS3 s'était vendue beaucoup mieux au Japon sur la semaine. C'était même elle qui était en tête des ventes dans les charts à ce moment-là, avec 62 527 exemplaires de la console écoulés devant la DS et la PSP. Plus de 20 000 par rapport à la PSP et un peu moins de 20 000 par rapport à la DS. Ce qui était plutôt une bonne chose pour la PS3 à l'époque. Même si ça faisait un moment qu'elle commençait à regagner un petit peu de poil de la bête, notamment par rapport à la Wii qui cette semaine-là n'était que quatrième dans les ventes. Donc voilà, l'effet Final Fantasy fonctionnait encore il y a 10 ans. Et en dernière, news d'il y a 10 ans sur Gameblog, eh bien, c'est l'annulation.
Oh, bah 10 ans déjà, j'ai l'impression que c'était hier.
Moi aussi.
Hallucinant.
L'annulation d'un jeu qui faisait beaucoup polémique.
Putain, c'est incroyable.
Six Days in Fallujah, un jeu qui devait être édité par Konami et qui devait revenir sur la bataille de Fallujah, donc qui était encore toute fraîche. Hein, ça se passait pendant la guerre post 11 septembre, où les Américains ont dû essayer de récupérer un peu l'Irak.
Deuxième guerre du Golfe.
Ouais, ouais, voilà. Et bah, malheureusement. Je dis malheureusement pour le studio qui était en charge de cette production, qui était censé être aussi un hommage aux soldats qui s'étaient sacrifiés sur place. Et bien malheureusement pour eux, ça n'avait pas marché. Au bout d'une semaine, deux semaines, voire plus, hein, de bullshit médiatique, ou plutôt de shit médiatique.
Exact.
Et bien, ça n'avait pas fonctionné. Donc Konami avait déclaré après ça, après avoir été témoin de la réaction au jeu des États-Unis et après avoir entendu diverses opinions émises par téléphone ou par email, nous avons décidé il y a quelques jours de ne pas le vendre. Notre intention était de transmettre la réalité des batailles aux joueurs de manière à ce qu'ils puissent ressentir ce que c'était que d'y être. Donc voilà, Six Days in Fallujah ne paraîtra jamais, malheureusement.
Exact.
Pour Atomic Games. Il était prévu en 2010 à la base sur Xbox 360, PC et PS3.
Parfait. Eh bien, merci Plume.
Et bah,
effectivement, Six Days in Fallujah, j'étais persuadé que c'était il y a 2-3 ans maximum. Quoi.
Et non. Mais pourtant, on a fait d'autres.
Je sais pas ce qui s'est passé.
D'autres
là,
conflits tranquillement, mais celui-ci.
C'était encore un peu trop frais dans les esprits, je pense.
Ouais, peut-être.
Bon, bah, parfait, merci beaucoup.
Et
bien, ceci nous amène au thème numéro 1, n'est-ce pas? Et le fameux Mortal Kombat 11. avec le générique.
Ouais. Et avec Christophe Lambert.
Et Christophe Lambert, bien sûr.
N'oublions pas Christophe Lambert dans le spot français. Quelle classe.
Voilà, donc Johnny One, tu l'as testé, tu l'as fini dans tous les sens. Tu l'as fatalisé dans tous les sens aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Alors voilà, que vas-tu nous en dire, n'est-ce pas?
Donc, eh bien, on retrouve.
Qu'est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est trop bien?
Alors, moi, c'est une série avec laquelle je pars avec un petit a priori, parce que c'est pas ma série de jeux de baston préférée, hein, tout simplement. Faut le dire. Pourquoi? Bien, tout simplement à cause d'un certain feeling qui est vraiment extrêmement différent de ce qu'on peut retrouver dans le jeu de baston japonais, en fait. Voilà.
Mmh. C'est à l'américaine.
C'est toi qui le dis, Traz. Hein, c'est un jeu à l'américaine.
Ouais, enfin, à la base, c'est pas moi qui dis ça. On se comprend. À l'américaine.
Et bon, tu sais, tu es un ancien et du coup c'est
toi qui
c'est toi qui nous guide vers la connaissance. Voilà. Donc bah oui, on retrouve donc le 11e épisode de la
déjà,
saga. Alors bon, 11e, hein, ne nous mentons pas, il y en a d'autres, hein, des spin-offs, des choses comme ça, des jeux TPS, des beat'em all tout pourris, ça existe, hein, avec la marque Mortal Kombat. Et là, on retrouve donc le 11e épisode qui va être c'est pas le premier, hein, on en avait déjà eu le 10 sur nos consoles de génération actuelle, mais du coup, bah, ça va être le Mortal Kombat de fin de génération. Et en plus, donc, quand on regarde le studio n'en est pas à son coup d'essai sur PS4, Xbox One, puisque on a eu Mortal Kombat 10, mais on a eu aussi Injustice 2.
Tout à fait.
Voilà. Donc, troisième sortie sur nos consoles, et bah, faut avouer que, bah, tu vois, on va commencer par parler de ça. Graphiquement, bah, ça déboîte, du coup.
Ah, voilà. Ça défonce, ouais.
Ça défonce vraiment, vraiment pas mal. Le jeu est vraiment super super beau. Ça fait plaisir, surtout quand on sait que assez régulièrement dans des jeux de baston on a soit un design qui pêche, soit des graphismes c'est les mêmes que le jeu d'avant. Enfin voilà, Dead or Alive 6, Soul Calibur 6, voilà, c'était des trucs qui étaient très très similaires au jeu précédent, au cinquième épisode. Là non, Mortal Kombat 11 est vraiment beaucoup plus beau.
Ouais, on dirait qu'il y a un vrai gap, hein,
que Mortal Kombat 10 et même que Injustice 2, hein, voilà, que j'ai relancé pour faire un petit comparatif.
Même côté design, hein, je trouve qu'il est beaucoup moins dégueulasse que Mortal Kombat 10.
Ouais.
Le design des persos est un peu moins vulgaire, je trouve.
Bon, alors...
Bah, ils ont peut-être cherché des vrais designers, hein.
Je sais pas trop. Alors c'est assez rigolo parce que t'as beaucoup de personnages qui, bah, tous les asiatiques du jeu notamment ont des traits très très prononcés asiatiques, que ce soit les Sub-Zero, les Chang Tsung, les Kung Lao, les Liu Kang, les même Scorpion. C'est assez rigolo, on voit Scorpion sans son masque dans le jeu. Voilà.
Alors qu'avant c'était pas le cas, il était plus un peu américaine entre guillemets.
Bah, ils ont pas tous retiré leur masque, hein, dans la série.
Ouais, non. Mais oui, donc le design, moi je le trouvais assez séduisant. Et comme je te dis, voilà, vraiment graphiquement, ça déboîte.
Ah, ça déboîte pas mal.
Les modèles 3D des persos sont très beaux. Les effets de lumière dans les niveaux sont magnifiques. Les textures, même les effets de matière sur certains vêtements.
Ouais.
Tout ça associé aux effets de lumière, avec le mouvement. Enfin bon, bref, visuellement, ça défonce. Surtout qu'en plus, donc, bah, on a toujours toutes le milliard de fatalité, de brutalité, etc. à disposition, et du coup qui vont eux aussi nous en mettre plein la tête.
Tellement dégueulasse.
C'est de dire.
On voit des trucs vraiment vraiment.
Ah là, j'ai l'impression qu'ils ont été très 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 loin dans cet épisode.
Ah bah les fatalités, ça y va. C'est très violent.
Plus gore que jamais là.
Ah bah c'est celle de Cassie. Moi c'est, bah, je crois que c'est celle-là qu'on va voir là pour les premiums qui regardent. Celle de Cassie Cage où elle donne un coup dans les roubignoles.
Ah oui.
Du coup ça fait remonter la colonne vertébrale.
Fantastique celle-là.
Mais ça c'est complètement délirant.
Mais comment ils trouvent des trucs comme ça?
Qui est l'esprit malade qui se dit, c'est dans une réunion, bon les gars, on va plancher sur les fatalities.
Ah bah là, comment on va faire plus hardcore, quoi.
À partir du moment où c'est un jeu 18+, tu peux te lâcher, ils s'en foutent, quoi. Ils mettent tout n'importe quoi.
C'est assez rigolo, j'ai lu une interview de Mr. Ed Boon, qui nous disait que les fatalités, en fait, à la base, ça vient d'une idée que, en fait, ils se sont inspirés
de son fils.
Non, ils se sont inspirés de ce qui existait dans Street Fighter et compagnie, le stun, en fait. Quand tu te fais stun par ton adversaire, que tu peux plus rien faire.
Exactement. Bah, t'as la merci de
voilà,
du mec.
Ils ont voulu retranscrire tout le fun de ce truc-là, mais du coup, à la fin du combat. Voilà. Alors, il y a même un truc qui est rigolo dans MK11, c'est le merci. Si t'es en position de fatalité, tu peux redonner un petit peu de barre de vie
à ton adversaire. L'épargner.
Voilà, allez, on continue à
lui donner une petite chance de te battre. Tout à fait.
Ah, puis avant, t'avais des friendships, les babalities.
Ouais,
des trucs comme ça.
Alors, j'ai pas fait
y a plus
tour
ça dans
du...
ce.
Alors, moi, j'ai vu les. Donc, moi, pour l'instant, j'ai vu les fatalités, les brutalité et les merci donc.
Il y a plus Babality, je crois. Hein. Ils ont
alors,
ça, hein.
Je sais pas trop.
Dans le temps, je crois.
Il se peut qu'il y ait des trucs qui sont encore cachés dans le jeu. Hein, tu vois qu'on n'ait pas encore tout vu. Il se peut qu'il y ait des friend fatality. Comment ça s'appelait les friendship.
Ah, friendship, c'est ça. Ouais.
Voilà. Il se peut qu'il y ait des choses comme ça. Voilà. Et puis il se peut même que ça arrive un peu plus tard via du contenu supplémentaire.
Il y a même un truc spécial hein, quand tu rage, quand ton adversaire rage quit. Je crois que t'as eu droit à encore un autre qualificatif dont j'ai oublié le nom. Ils ont pensé à tout.
Tafiolity, non ?
Non, c'est pas non. Oh, bravo. Hein.
Non, c'était comme ça, c'était une idée en l'air, hein, j'en sais rien.
T'aurais fait de la garder. Bon, ouais, en termes de baston,
du coup. Graphiquement, c'est très beau. L'histoire, on va finir sur tout ce qui est design.
L'histoire est hyper complexe.
Mortal Kombat, ça a toujours été une histoire.
Mais c'est toujours par colonne, c'est ça là ? Alors, ils se battent tous par.
Ouais, t'as toujours les tours, mais
c'est ça les fameuses tours.
Les modes de jeu. Ouais. Non, je te parle du scénario en fait. Donc, le scénario, on retrouve nos héros. Alors. Il y a un truc qui est très fort, c'est NetherRealms. Ils ont donc inventé là, enfin ils ont inventé, oui, c'est plus ou moins qui ont démocratisé ça, on va dire, avec leur MK9 et puis surtout avant avec Mortal Kombat versus DC. Le mode cinématique, voilà.
Alors c'est quoi justement le mode cinématique ?
Bah, c'est une grosse cinématique de 3-4 heures entrecoupée de combats qui va nous raconter l'histoire du destin des personnages. D'accord. Et donc là, dans celui-là, on retrouve Raiden en personnage principal. Raiden qui pète un peu un boulard depuis quelques épisodes, qui devient complètement fou et qui se met lui-même tuer ses amis pour protéger le monde hein, en fait. Lui, c'est ce qu'il aimerait faire, mais en vrai, il se met à tuer tout le monde. Et on se retrouve avec ce pitch de départ là, avec un Raiden qui a un peu pété un câble et qui a fait de Liu Kang, de Kung Lao, etc. des serviteurs du mal en fait, du coup, parce qu'ils ont la haine de Raiden. Voilà. Et en fait, on va se rendre compte que dans tout ça, tout ce bordel, les Shao Kahn, les Chang Tsung, les comment ils s'appellent, les Quan Chi, tous ces méchants là, en fait, ils n'étaient motivés que par une chose, c'est parce qu'il y a une vilaine méchante qui s'appelle Kronika et qui est là et qui modifie le temps derrière.
D'accord.
Qui modifie le temps et qui fait en sorte que cette Kronika se débrouille pour que ce soit la guerre permanente entre l'outre monde et le monde Terre. Mmh. Voilà. Et donc on va avoir droit à un petit scénario où nos héros, ils vont essayer d'aller casser la tête de Kronika tout simplement. Mmh. Voilà. Pour arrêter tous ces.
Et ça se passe bien, les scénarios cool, ou pas ?
Ça reste au niveau d'un Mortal Kombat, c'est plutôt cool à suivre. On a des. C'est un nanar, hein. Donc on a des incohérences, des grosses incohérences. Genre, je t'édicte une règle à la 30e minute et puis à la 45e minute, je ne tiens pas compte de cette règle, je change d'avis. Ah bah non, t'aurais dû mourir, mais non, tu ne mourras pas puisque la règle.
Comme
à
la cour de récré, quoi.
Ah voilà, exactement.
Tout a changé au dernier moment.
Des règles de cour de récré. Non, non, c'est sympa à suivre. C'est très stylé en termes d'action, etc. C'est plutôt badass. On a des vraies scènes d'action entre les combats qui vont rendre hommage à tel ou tel film des années 90. Etc.
C'est bien ça. Et les cinématiques ont l'air pas mal du tout d'ailleurs.
Ouais. Non, c'est vraiment bien.
Il a l'air bien chiadé, bien complet quand même le jeu quoi.
Ouais. Non, là-dessus, sur le mode histoire, c'est plutôt cool.
Mais y a pas Shao Kahn dans le mode histoire ? Il a rien à voir là-dedans ?
Alors, si Shao Kahn, il est en DLC, il est dans l'histoire. Donc, comme je te dis, je suis pas allé jusqu'au bout de mon pitch.
Vas-y.
Donc on a des gentils qui sont méchants, etc. Et là où c'est cool, c'est qu'en fait, avec les modifications du temps, on fait ce qu'on veut.
D'accord.
Du coup, on te ramène, en plus du casting des Mortal Kombat, donc Mortal Kombat 11, les mecs, ils ont fait 10 Mortal Kombat avant, hein, dans l'histoire. Voilà, donc je te laisse imaginer dans lequel ils sont.
Effectivement.
On te remet avec les manipulations du temps, on fait apparaître un second casting de combattants, qui sont les Mortal Kombatants période SNES à peu près. Voilà. Donc on a les persos vieux et on a les persos jeunes dans l'histoire qui vont avancer ensemble. Du coup, on va avoir pas mal de matchs miroirs, énormément de fanservice.
D'accord.
Genre un tel gentil contre un tel méchant qui vont se battre ensemble et tout. Non, pour le coup c'est assez stylé. Vraiment le mode histoire, ils ont plus ou moins inventé ça. Et vraiment par rapport à la concurrence, ils gardent une vraie longueur d'avance. C'est-à-dire là où on zappe le mode story dans les autres jeux de baston, là dans Mortal Kombat on va aller le faire et on va s'amuser. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Tiens, petite histoire petite anecdote assez amusante, toujours sur l'histoire.
Le saviez-tu ?
Ce Mortal Kombat aurait dû être le premier jeu, un jeu Jean-Claude Van Damme.
Ah oui, alors justement,
ouais. Ouais, Boone et Tobias en parlaient, voilà, déjà.
Ouais, donc il commence, c'est une histoire qui commence à sortir un petit peu dans les interviews. Ça fait un an qu'il commence à sortir cette histoire.
Alors Tobias, explique-nous bien ce que c'est.
Tobias, lui, il avait déjà l'idée de Mortal Kombat en tête. Mmh. Voilà. Donc Tobias, c'est un des designer artistique du premier jeu. Donc lui, il avait déjà le design Mortal Kombat, l'idée des fatalities, des ninjas, de Raiden, etc. Mais à côté de ça, on lui a dit plus ou moins non à ton idée parce que les patrons veulent un jeu Jean-Claude Van Damme. Ils veulent un jeu de baston Jean-Claude Van Damme. Mais bon, Monsieur Van Damme a refusé donc d'être dans Mortal Kombat.
Parce qu'elle est dans Mortal Kombat. Le jeu Street Fighter.
Mais bon, au final, tant mieux, hein, parce que si on avait eu Jean-Claude Van Damme le jeu, on serait pas où en serait la série aujourd'hui. Hein.
Ah bah, elle existerait peut-être même pas.
Elle existerait peut-être même possible. Pas. Et donc, Jean-Claude Van Damme refuse le projet. Du coup, Ed Boon et Tobias, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à fond sur le Mortal Kombat tel qu'on le connaît. Voilà. Donc, mais si les mecs de Midway avaient vraiment insisté, payé un chèque suffisamment gros, on n'aurait peut-être pas ce Mortal Kombat là aujourd'hui.
Bah, la face du monde, tout a changé, comme on dit.
Ouais, la face du monde aura changé. Jean-Claude Van Damme serait devenu probablement, je ne sais pas,
gouverneur de Californie.
Exactement. À la place
à la place de notre ami Schwarzenegger.
Exactement, tout à fait. Bah, alors, c'est le meilleur de la saga ou pas pour toi, ou pas forcément?
Ouais, je pense. Ouais. Alors.
En tout cas, ça a l'air d'être le plus complet, le plus abouti.
Il va y avoir
des
plus, des moins, plus complet, pas forcément sur le casting.
Ouais.
Puisqu'on a 25 combattants.
Bah attends, il y a plein d'autres
qui arrivent
en DLC.
Il y a 10 qui vont arriver en DLC. Alors, on a vu des noms assez rigolos dans les rumeurs pour les DLC, genre les Terminator. J'ai lu qui d'autre?
Ah ouais?
Ce serait Schwarzenegger.
Freddy Krueger aussi.
Freddy Krueger c'était dans le 9, Jason c'était dans le 10.
Jason,
donc là, alors moi j'ai lu Terminator, j'ai lu. Bon, c'est des rumeurs, hein, tout ça.
Ouais, c'est ça, parce que
le Joker en invité.
Le Joker, Terminator, et deux autres, je sais plus qui c'était.
Mais c'est quoi le rapport?
C'est des invités.
Ils ont des invités régulièrement. Tu vois, par exemple, dans Injustice 2, t'avais les Tortues Ninja.
Oui, c'est vrai.
Dans Mortal Kombat 10, t'avais tous les personnages de films d'horreur. Jason, Alien.
D'accord.
Terminator, ils se battent pas.
Massacre à la tronçonneuse.
Oui, c'est pour ça. Terminator, j'ai vraiment du mal à le voir là-dedans.
Si, il va se battre au corps à corps. T'inquiète.
Il va se liquéfier.
Non, moi je pense plutôt que ce sera le Schwarzy T-800.
Ah, hein.
J'imagine ça comme ça. Hein. Si, ça doit faire mal un coup de poing de Terminator, mec. Hein. Et puis s'il sort une espèce de. Une lame ou une chose comme ça de sa main. Enfin bon, bref.
Il y a toutes ces choses-là à venir, du coup. Ça peut être rigolo.
Donc le jeu, il est complet aujourd'hui. Il le sera encore plus dans un an quand il y aura la version. Je sais pas ce qu'ils vont trouver comme jeu de mots là. Ils avaient fait XL.
La version plus.
Ouais, voilà. Donc il le sera encore plus, c'est sûr, à ce niveau-là. En termes de mode de jeu, il est très complet, par contre, de base, puisque, comme on disait, il y a le mode story, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est... Bon, ça va te prendre 3 heures, tu le referas plus jamais, hein.
Ouais.
Mais ça reste quand même un gros morceau et quelque chose d'assez agréable.
3 heures, c'est quand même pas mal pour...
Et à souligner,
dans un jeu de, baston comme ça. Hein.
Ça reste tout de même pas mal, il faut le souligner, notamment vu la qualité du bousin. On va avoir pas mal de modes solo, donc toutes les tours dont tu parlais tout à l'heure, Traz, qui remplacent le mode arcade, en gros avec un épilogue de personnages à la fin. Donc on a des tours de plus en plus dures, de plus en plus longues, voire
logique.
Même infinies, qui fait office de mode survival, du coup. On va avoir quoi d'autre? Des tours en temps limité. Qui vont apparaître dans ta console 2h, 3h, 4h d'affilée. Voilà, il faudra te dépêcher de les finir.
D'accord.
On va avoir aussi un mode entraînement qui va être alors là super chiadé, mais vraiment. Donc on a un mode training classique, ça, ok. Mais à côté de ça, on a un tutoriel. Le tutoriel, il est génial.
Ouais.
Alors déjà, on va nous expliquer toutes les bases de gameplay, mais on va faire un truc qui est extraordinaire après, qui avait plus ou moins de mémoire jamais été fait dans un jeu de baston auparavant. C'est qu'on va nous expliquer les frames. Qu'est-ce que c'est qu'une frame?
Les frames. Oui, frames.
Alors, on te dit...
À la frame 16.
On te dit... Oui, c'est ça, hein, c'est clairement ça. On te dit le jeu est en 60 images secondes. Retiens ce chiffre. Et ensuite, on commence par te montrer la décomposition des coups.
Oui, j'ai lu ton test, effectivement, tu en entends parler, effectivement.
Ouais. On te dit un coup, par exemple, tel coup de Sub-Zero dure 30 frames en tout.
Je trouve ça super chaud, moi.
T'as
mais bon.
13 frames de déclenchement d'animation, 2 frames de coups qui touchent et 13 frames de retour en position initiale. Voilà.
Ça fait 28
ans. Et à côté de ça, on t'explique que face à un coup rapide, face à un coup lent, le le coulant, lui, par contre, c'est 35 frames de déclenchement, ouais. 10 frames de touche et de nouveau 35 frames de retour en arrière. Ouais. Mais là, on t'explique que tu vois, bah, le coup rapide, forcément, va avoir la priorité, etc.
D'accord, ok.
Enfin, on te donne un vrai cours sur
tous
les.
Hyper technique. Hein.
Et c'est quand tu
le décortiques
Mortal
comme
Kombat,
ça.
C'est un jeu ultra technique. Donc, on te donne tous les tenants et les aboutissants pour comprendre ce système-là, en fait. Mmh. Alors, on te donne la clé. Après, c'est à toi d'aller chercher la porte et d'ouvrir la clé. Hein. Mmh. Bien sûr, hein, le cours, en vrai, il dure 10 minutes hein, dans ouais. le jeu. Mais, comme je te dis, de mémoire, ça n'avait jamais été fait. Et c'est vraiment, bah, en fait, c'est ce qu'il faudrait que tout le monde fasse, en fait, ouais. en vrai. Mmh. Voilà, t'expliquer les rouages et les arcanes
méthode,
du
ouais.
jeu de baston. Quoi. Là, on te le décortique et on te montre ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu comme dans les fatalités où on te montre aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc non, le tuto vraiment vraiment stylé, pareil, un autre truc. Alors je parle un petit peu de gameplay. Mortal Kombat, c'est un jeu qui est assez intraitable en termes de timing,
ouais.
Contrairement à un BlazBlue, tu vas faire, je sais pas moi, un carré triangle rond avec une direction différente à chaque coup, tu vas faire carré sur ta manette, voilà. Là, ça, Mortal Kombat, ça marche pas. Carré triangle rond, faut faire carré triangle rond dans cet ordre-là et avec le bon timing.
D'accord.
Si tu fais carré triangle rond, non, c'est foutu, ton combo ne passera
pas.
Et bah là, il y a un autre truc que le jeu fait qui est bien. Alors ça, pareil, ça reste assez petit dans le tutoriel, mais même ça a le mérite d'exister vraiment. C'est qu'on va nous montrer avec des sabliers qui défilent les timings des combos. Ça, j'avais trouvé ça assez génial.
Ah ouais.
Ouais. Donc on va vraiment avoir dans ce tutoriel de quoi comprendre les mécaniques du jeu. Alors,
c'est comme l'espèce d'horloge pour les musiciens, non ? Ils ont fait un petit,
ouais,
un petit
ouais,
genre
voilà.
Comme,
non, là c'est un sablier qui va défiler, qui va te montrer le bon moment pour appuyer, pour justement valider ton combo. Okay. Alors il y a un truc qui fait qui est pas mal du tout aussi, c'est que par exemple tu as réussi le combo mais tu l'as pas fait avec le bon timing, te dit ah t'as réussi le combo mais tu n'avais pas le bon timing. C'est-à-dire que dans le tuto on t'explique même ce que tu réussis et ce que tu ne réussis pas.
D'accord. Okay.
Donc le tuto vraiment 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 bien foutu et il te donne les bases nécessaires pour ensuite toi t'améliorer tout seul, puisque nous l'aurons pas, c'est pas parce que tu vas finir le tutoriel que tu vas être champion du monde à l'Evo la semaine suivante, hein. Non, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, hein. Voilà. Et du coup bah ça va m'amener sur un peu la dernière partie de cette petite review, bah ça va être la jouabilité, hein. Donc je le disais en préambule, moi c'est pas forcément trop ma cam de base Mortal Kombat. Pourquoi ? Parce que bah il y a une certaine rigidité. Alors en plus MK11, je trouve qu'il est encore plus rigide.
Comme on disait à l'américaine, quoi.
Ouais. J'ai rejoint un peu à MK10. Du coup pour le coup j'ai rejoué aussi à Injustice pour remettre un petit peu dans le bain avant mon test de MK11. MK11, c'est le vraiment le plus rigide de ces trois jeux cités. Voilà, bon, c'est vraiment un retour en arrière à ce niveau-là. Mais ça reste malgré ça très 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 complet et très 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 complexe. Alors pareil, il y a un autre petit point noir que je peux donner, c'est la garde sur R2. Alors clairement dans un jeu de baston 2D, non, c'est tout sauf intuitif. Dans un jeu de baston 3D,
te mettre en arrière, c'est ça.
Ouais, voilà, ouais. Tu mets la garde sur un bouton dans un jeu de baston 3D, il y a pas de souci. Soul Calibur le fait, Dead or Alive le fait. Je peux m'en sortir. Dans un jeu 2D, c'est extrêmement compliqué que tu appuies en arrière.
Penser à ça, quoi.
Le réflexe, c'est t'appuies en arrière. Voilà.
Tout à fait, je suis d'accord.
Et là où c'est encore plus incompréhensible, c'est que Injustice, la garde est en arrière, tu vois. Injustice du même studio. Hein. Donc bon, ça c'est.
Bref. Et ça, tu peux pas le changer dans le jeu, par contre.
Non, tu pourras pas mettre en arrière.
Ouais,
en tout cas, quoi qu'il arrive, tu peux changer de bouton si tu veux. Tu peux changer la garde de
donc
bouton.
Donc c'est forcément un bouton.
Mais tu pourras pas la mettre en arrière. Donc d'accord. La garde sur un bouton, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais bon, ça, c'est ma sensibilité à la limite. Ça gênera moins certaines personnes. Et donc, niveau gameplay, on retrouve quelque chose qui était déjà là dans la série, c'est-à-dire on a 4 boutons. Chaque bouton sert à un coup. Ensuite, on va pouvoir varier nos coups en
varier les plaisirs
avec des directions. Voilà. À côté de ça, on va avoir des coups spéciaux. Les coups spéciaux, c'est 2 directions et un bouton d'attaque. Et à côté de ça, on va pouvoir se servir de tout ce système pour essayer de construire ces combos. Alors ces combos, comment ça marche ? Eh faut les connaître en fait. C'est pas on va appuyer au pif sur la manette et ça va nous sortir un truc. Là, au maximum, on arrivera à faire un combo x2 avec un peu de chance, un combo x3. Si on vise le combo x10, il va falloir connaître par cœur parce que On peut pas faire n'importe quel enchaînement à n'importe quel moment. Ouais, non, Mortal Kombat est un jeu compliqué. C'est un jeu qui est très très complexe. Parce que bon, je vais pas faire le tour des petites mécaniques. Hein,
oui. Chacun veut,
qui viennent complexifier la chose, des priorités, etc. Mm. C'est un jeu très complet et très complexe. Et contrairement à, je sais pas moi, un Blaze Blue, ou un Street Fighter ou un Dragon Ball Fighters, merci, c'est lui que je cherchais, qui vont, ou même un Tekken ou un Dead or Alive, qui vont être très accessibles et proposer un maximum de fun dès le départ, ce sera peut-être
Tekken, je te trouve un peu.
Tekken, c'est
un peu cavalier.
Très facile d'accès.
Non, ouais, quand tu joues avec Tiger, enfin Tiger, avec. Comment. Celui qui fait du. De la capoeira.
Ouais, de la capoeira, oui. Ouais, voilà. T'as Eddie Gordo. T'as mis sur un peu n'importe quelle touche et tu gagnes tous les matchs. C'est des jeux qui sont très faciles d'accès, tous ces jeux-là. Mortal Kombat, lui, peut-être un peu moins.
Un peu plus scientifique.
Ouais, si t'es un débutant. Que là en 2019, tu t'es acheté DOA6 et que tu t'es acheté MK11. Tu vas peut-être plus arriver à avoir des résultats facilement sur DOA6 rapidement. D'accord. Que sur MK11. MK11 va te demander un peu plus d'investissement et un peu plus de travail avant de vraiment pouvoir être joué de façon satisfaisante. Ouais. Voilà. Donc un débutant prendra moins de plaisir sur ce MK11 parce que tout simplement il va rien arriver à sortir, il va se faire défoncer que sur un autre jeu.
D'accord. Bon bah parfait, c'était très 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 complet. Hein. Bien sûr, vous pouvez retrouver le test de Johnny One sur Gameblog. Forcément. D'ailleurs, t'avais mis quelle note déjà ?
8. Indispensable.
Indispensable. Donc voilà, ça reste très bon.
C'est très bon.
Voilà. Et la bonne camelote de jeu de baston.
Voilà, exactement. Donc j'ai cité DOA6. Je vais citer deux autres jeux qui devraient arriver en 2019.
Ouais.
C'est Grand Blue Fantasy Versus et l'autre c'est. Alors c'est lequel ? Le quatrième jeu de baston. Alors je ne sais plus, mais. Enfin bon, bref, voilà. Tu te poses la question de savoir qui sera jeu de l'année. Voilà.
D'accord.
Et je pense que tu peux avoir la réponse plutôt facilement.
Oui, effectivement. Parfait, merci Johnny One pour ce test ultra complet de Mortal Kombat 11, donc sur toutes les machines. On n'a pas eu la version Switch par contre, mais bon.
Non, il sort en mai, donc je pense qu'ils vont nous renvoyer une.
Ah oui, c'est vrai qu'il a été
ouais,
repoussé
ouais,
en mai,
ouais.
C'est ça.
Ils vont nous renvoyer soit un code, soit quelque chose.
Bon, de toute façon, on en parlera.
On fera un update du test.
Exactement,
à ce
moment-là. Ouais. Juste pour voir ce que ça vaut sur cette machine. On passe au thème numéro 2, n'est-ce pas, Monsieur Plume ?
Ouais.
Avec un certain contrôle que tu as pu voir récemment.
Ah, j'ai même pu y jouer, même cette semaine.
Tu as même pu y jouer, effectivement.
Ah, j'y jouais, je suis même plutôt content.
Alors, qu'en pensez-vous ?
D'avoir pu y jouer. Ce que j'en pense, c'est que quand il a été présenté à l'E3, je lui trouvais pas trop de personnalité.
À l'E3 l'année dernière, tu veux dire ?
Ouais, à l'E3 l'année dernière. Je trouvais pas trop de personnalité, je me demandais si ça allait pas être une espèce de sous Quantum Break like, et puis finalement en y jouant et en discutant un petit peu avec Thomas Pouah qui est le directeur de la communication de Remedy, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses positives à en tirer et qui font qu'on doit l'attendre qu'autre chose. C'est un jeu qui prend énormément de qui donne énormément de liberté aux joueurs. On va jouer une directrice d'un bureau spécial, une espèce de FBI du paranormal, qui elle-même possède des pouvoirs spéciaux. Et franchement, à jouer, c'est super plaisant. Ça me rappelle beaucoup le pouvoir de la Force, Star Wars, le pouvoir de la Force, qui est un de mes jeux.
C'est vrai qu'il y a un petit côté
préférés de l'univers Star Wars.
J'irais même au-delà de ça. C'est peut-être le jeu Matrix qu'on attendait.
Aussi, ouais. Il y a un air de Matrix. Après. Forcément, dès que tu commences à pouvoir l'éviter, à faire de la télékinésie, tu penses à tout ça. Moi, ça m'a aussi pensé à des vieux jeux. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on commençait à avoir des jeux qui mettaient la télékinésie en place, parce que c'était quand même assez compliqué en termes de maniabilité et de trouver les bonnes choses.
Et puis il faut le moteur 3D derrière quand même.
De PsyOps et Second Sight qui étaient sortis quasiment en même temps d'ailleurs, dans mes souvenirs. Et on a cette même liberté, ce même sentiment de puissance que dans ces jeux-là, et ça se passe vraiment très très bien. C'est vraiment très intuitif, il n'y a pas de problème de maniabilité, c'est très fluide. Et ouais, choper des éléments du décor, les envoyer à la tête d'un ennemi pour essayer de l'affaiblir un petit peu, et peut-être après justement retourner son cerveau pour qu'il s'en prenne à ses anciens alliés, c'est vraiment super bien fait. Il y a aussi cette histoire de flingue, on a vu que deux deux transformations hein, du flingue, mais on se rend compte qu'il y aura peut-être d'autres possibilités avec. Il y a un tir mitraillette et un tir concentré qui font exploser les ennemis d'un seul coup, mmh. avec des modes aussi qui vont changer la distribution un petit peu de la puissance, qui est plutôt bien foutue. On pourra améliorer aussi le personnage. Il y aura des tas de secrets à découvrir dans le jeu, des coffres secrets, des pièces secrètes où on va se retrouver avec de quoi améliorer la barre de vie, améliorer la façon dont l'énergie pour utiliser la télékinésie se renforce. C'est en termes de jeu lui-même Remedy, de toute façon je pense pas qu'ils vont se foirer. Ça risque d'être super bien, super facile à jouer et très rapidement en plus. C'était plus l'ambiance et le scénar qui me faisait flipper. Et de ce côté-là, j'ai vraiment pas été déçu de ce qu'on a vu, hein, parce qu'encore une fois, ils préfèrent rester mystérieux. Ils veulent pas trop en dire, pas trop en montrer, et ça se comprend. Hein. Il vaut mieux éviter de spoiler à l'avance des choses qui pourraient nous en dire un peu trop sur les enjeux.
C'est vachement classe en ce cas.
De contrôle. Ouais, ouais. Et voilà, le terme classe, c'est exactement ça. C'est tu vas être vraiment dans un. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va être dans un épisode de la quatrième dimension, mais version 2019, et que il y aura plein de trucs bizarres qui vont se passer. Ça sera beaucoup moins grand public qu'un Quantum Break, par exemple, ouais. Qui avait des obligations, notamment par rapport à son casting, d'être beaucoup plus accessible, même si ça parlait d'histoire de manipulation du temps et tout, mais qui n'était pas aussi. Influencé par des hommes comme David Lynch ou autres, comme ont pu l'être des Max Payne ou Alan Wake auparavant, très Stephen King plutôt Alan Wake. Là pour le coup, tu sens qu'il va ça va être vraiment Zarbi. Il y a plein de petites pièces qu'on a pu aller voir en dehors des combats, hein, évidemment, qu'on a pu aller voir qui sont très différentes de ce à quoi je m'attendais. Vraiment, je m'attendais vraiment à un truc futuriste classique, mais non, il y a une pièce notamment qui s'appelle le labyrinthe des miroirs, dans laquelle c'est un couloir art déco, et les pièces, enfin les murs, se rabattent et s'ouvrent sans que tu comprennes pourquoi. Ça fait vraiment très bizarre, très ancien. Et voilà, on a des images là pour les premiums. Et là, je retrouve une ambiance qui vraiment pour moi correspond à ce que Remedy a l'habitude de nous faire, avec toujours un sound design mais qui est démentiel, quoi. Ils ont des mecs qui bossent pour nous immerger dans leurs ambiances et qui sont des artistes dans le domaine. Et là encore une fois, t'as par moments aussi l'impression qu'il y a des invocations à Satan qui se passent, des bruits toujours qui t'agressent sans savoir pourquoi. Visuellement aussi, hein, vous voyez par exemple ce tour dans le plan astral, qui est un plan beaucoup plus épuré avec beaucoup moins de choses à l'écran. C'est tu sais que tu vas être dans un autre monde, ça se voit tout de suite. Et il y a plein d'endroits comme ça qu'on a pu voir où ça s'inscrit vraiment dans une autre logique pour essayer de nous faire comprendre qu'on est ailleurs. Et ça marche super bien. Il y a des effets visuels.
C'est vachement beau ça.
Des effets visuels qui sont extraordinaires encore une fois. Moi il y en a un surtout qui est une espèce de traînée derrière les ennemis que tu abats et qui se fige un petit peu dans le temps. Une espèce de traînée, on dirait comme quand vous regardez une flaque d'eau dans laquelle il y a des traces d'essence. C'est ça fait un espèce de dégradé de couleur un peu étrange. Et ça fait exactement la même chose. Et encore une fois, ils ont des idées visuelles et sonores à partager. En termes de gameplay, ça fonctionne bien. Maintenant,
ça fait pas trop penser à Quantum Break quand même.
Au départ,
parce que t'as l'impression qu'ils ont pris le même moteur presque. Enfin,
C'est le même moteur, c'est le Northside toujours.
Mais il est quand même peaufiné là. J'ai l'impression que c'est quand même plus, y a plus de détails, plus de choses qui se passent.
Quantum Break était déjà super hein, de ce côté-là.
Ah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux fait là. Mais bon après.
Ah ouais, écoute, moi je trouve qu'ils sont.
Ils ont forcément peaufiné, hein, c'est normal. Hein,
oui, c'est logique. Mais.
Et donc on retrouve pas forcément le même gameplay que Quantum Break. On est
pas exactement non. Non, je dis c'est plus de liberté. Tu pouvais pas l'éviter par exemple dans Quantum Break. T'avais des choses que tu pouvais faire avec des objets et tout, mais tu pouvais pas en prendre autant quoi.
Donc c'est ça, voilà, c'est pour ça que je dis que ça a vraiment d'être peaufiné parce qu'il y a plus de trucs.
Mais il y a plus les cassures, le système, enfin l'effet de cassure
de faille,
l'écran,
machin là. Ouais.
Je l'ai pas vu, mais ça se trouve il y en aura un aussi. Hein. Je sais pas trop, mais en tout cas, pour les personnes qui étaient un peu en mode OSEF par rapport au jeu, parce que c'est vrai que pendant le 3, il était un peu noyé dans plein d'autres jeux. Moi, je vous conseille plutôt de l'attendre et de faire confiance à Remedy pour nous faire encore un truc bien bien solide.
Ah, ça a l'air vraiment très très. Moi, tu m'as donné envie de ouf là, vraiment. Et de ce que j'en vois là sur les images, la télékinésie, c'est vraiment les mécaniques de Star Wars, du pouvoir de la Force. Hein. Tu chopes, tu vises et tu balances.
Ouais. Et encore dans Star Wars, tu pouvais pas l'éviter non plus. Non. Tu vois, tu pouvais sauter super haut, mais tu pouvais pas l'éviter. Ouais. Mais le pouvoir de la force, c'est un jeu un petit peu, pour moi, qui est un peu sous-estimé, mais qui était extraordinaire.
Moi, j'adore le premier aussi, et le deuxième. Ah, le deuxième qui s'est fait bâcher à la
j'ai
sortie.
Pas joué au deux.
Qui s'est fait bâcher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de niveaux, etc. Mmh. Enfin bon, bref, il a eu vraiment un bad buzz.
Non, mais le premier quand tu joues Vador dans les 15 premières minutes, mais quel claque.
C'était extraordinaire. Oh, et donc le deuxième s'était fait un peu bâcher à sa sortie. Mmh. Moi, je l'avais fait à la sortie, en effet, j'avais dit, oh, c'est un scandale, etc. Je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça, le 2. Et au final, je l'ai réhabilité un peu dans mon cœur. Voilà.
Bah, moi, je pense que les jeux.
Cœur de joueur.
Les jeux avec télékinésie et trucs comme ça, j'avais l'impression que c'était un petit peu passé en retrait et que ça revient là. Donc tant mieux parce que. Se sentir surpuissant et se sentir comme dans Matrix, je pense que des fois ça fait du bien pour se défouler.
Et justement, là tu reparles de Matrix, vraiment en termes de design, on est sur un univers à la Matrix.
Ah, ils ont peut-être pas eu la licence ni Star Wars ni Matrix.
Non.
Il la voulait peut-être pas surtout.
Il la voulait peut-être pas.
Et du coup, bah, c'est assez stylé parce que c'est vraiment ce que je disais en intro. Peut-être qu'on va enfin avoir le jeu Matrix que nous méritons.
Bah, voilà. Peut-être.
Ah, bah là pour le coup, ça fait penser à ça.
Je sais pas si vous vous souvenez, les Hunters the Matrix là, qui sont pourtant parmi les meilleures ventes des PS2 et GameCube. Oh mon dieu, mais
c'est
quel
normal,
job.
Ça. Mais c'est normal.
Je me rappelle un MMORPG aussi, Matrix.
Je me rappelle l'avoir acheté la boutique sur Hunter the Matrix et le vendeur avait pas voulu que je l'essaye à l'époque. Tu sais, c'était l'époque où tu pouvais essayer un petit peu les jeux.
C'est celui où tu jouais les sidekicks là avec Jada Pinkett Smith.
Ouais,
et
voilà,
l'autre,
avec des scènes du film qui sont exactement les mêmes scènes que dans
c'est
le jeu
chelou,
dans
ouais.
le film. Enfin bon, bref, c'était un peu une blague ce jeu. Et ouais, je me souviens à l'époque, donc c'était une boutique où on pouvait essayer les jeux. Le mec avait pas voulu que je l'essaye celui-là.
Bah, je pense que c'était les consignes. Hein, ouais. Non, vous le laissez essayer
après.
Je crois
que vous l'aviez eu en retard à la presse. Hein.
Ouais, il me semble.
Parce que.
Mais je crois qu'on s'était pris la tête là sur ce jeu là il me semble.
C'était Virgin qui éditait si je me rappelle.
Franchement je sais plus mais
je crois qu'il avait été très mal reçu et que ça se
C'était une daube hein de toute façon n'allons pas plus loin que ça.
Bah oui, quand c'est une grosse licence
je pense que le jeu était nul. Si on peut retrouver le joypad dans lequel il est testé, à mon avis il a pris très très cher.
Oui, je crois qu'il avait pris cher à l'époque
et je crois que les légendes étaient vraiment très drôles aussi.
Et il me semble qu'on s'était pris la tête avec l'éditeur à l'époque pour plusieurs raisons.
Alors moi pour la petite histoire, donc je l'ai quand même acheté ce jeu, mais au final la belle histoire. Non mais je te dis, il a été super bien vendu.
Mais c'est normal. Attends, Matrix.
Et, ouais. Et pour la petite histoire, donc j'ai acheté 3 jeux ce jour-là. Donc il y avait 2 jeux d'occasion.
J'ai acheté 3 jeux.
Ouais, j'ai acheté 3 jeux. Parce que c'était 2 jeux achetés, un offert. Alors les 2 autres jeux. Alors je sais plus c'était quel le troisième.
Sais plus, à la limite,
Mais mon jeu offert. Non, mais c'est pas grave parce qu'au final, tu vois, Matrix m'a emmené vers quelque chose d'autre. Le jeu offert, c'était une licence que je ne connaissais pas à l'époque et j'ai pris en jeu gratuit Resident Evil Rebirth.
Ah,
voilà.
C'était quoi?
Donc Matrix, le jeu vidéo, m'a ouvert une autre porte.
Ah bah là pour le coup oui carrément.
Bon, et quelle porte?
T'as ouvert les
quoi qu'il en soit. Ouais. Pour contrôle, 27 août, c'est le même jour que la sortie de Shenmue, c'est pas le même style.
Ah c'est vrai.
Mais et c'est un super jour, hein, chérie, si tu m'écoutes. Et donc, n'hésitez pas à l'attendre vraiment. À mon avis, on aura d'autres surprises pendant le 3, notamment. Ils vont sûrement en montrer un peu plus. Et peut-être qu'on va voir encore plus de trucs de pouvoir dingo et peut-être un peu de scénar aussi. Mais là, je commence à y croire plutôt pas mal. Ce sera pas Alan Wake, mais ça peut être quand même costaud.
Et il sort sur quelle machine exactement?
PS4, Xbox One, PC.
D'accord.
Moi
parfait.
Ça me branche 10 fois plus qu'Alan Wake.
Donc le 27 août.
Ouais, mais c'est peut-être parce que t'es peut-être pas un.
T'es pas un vrai joueur.
T'es peut-être pas un fan de Stephen King.
Oh, je suis un ultra fan de Stephen King.
C'est
que je lisais énormément dans ma jeunesse. Et
ça y est, la jeunesse de Johnny.
Ouais,
Man,
je sais.
Partie numéro 1.
Tu sais que ça se voit pas trop aujourd'hui.
Tu connais la jeunesse de Picsou? Bah, la jeunesse de Johnny.
Et donc, notamment un bouquin qui s'appelait La Tour Sombre.
Oui, donc, et le film avec Eric Selma et Mathieu McConaughey.
Je ne sais guère.
Et donc, j'ai commencé à lire les King, notamment. J'ai tout lu, etc.
J'ai commencé à lire à 18 ans.
Dont la Tour Sombre, mais il n'y avait pas la suite.
Ah
et
non,
quand
pas
j'ai
faite.
Eu 25 ans, il a tout sorti d'un coup, en fait. Et j'ai lu ça, et depuis, j'ai plus ou moins arrêté de lire des bouquins. Voilà.
C'est vrai?
Ouais, ok. Ouais. C'est vrai.
Depuis qu'il est anti-Trump, ça y est, tu lis plus Stephen King?
Ah, c'est vrai? Ah, quel connard.
Ok, on va couper ça au montage. Hein.
Exactement. Ouais, merci Plume pour ce tour. J'allais dire ce tour de contrôle, mais ça le fait pas en fait.
Oh
j'ai
là
pas
là,
fait exprès, je vous
jure. Ok. Ah, vas-y, tu es parmi nous alors, ça y est, c'est
exactement.
Bon.
Exactement. culte, attention, j'ai acheté. Phrase culte. Parfait, parfait. Eh bien, nous allons passer au troisième thème. Et cette fois, je me tourne vers Camille, qui va nous parler non pas d'un jeu, mais de deux jeux qu'il a pu tester pour cette semaine. Exactement.
Qui sont donc le premier d'entre eux, c'est Anno 1800. Donc,
le meilleur d'entre eux.
Exactement, pour le coup. Une grosse série de chez Ubisoft, puisque c'est le studio Ubisoft Bluebit qui s'est occupé du
développement. Dire Blue Byte aussi.
Ouais, j'ai dit Blue Byte.
Parce que les Bluebit, c'est un autre truc. Hein.
Blue Byte qui s'est chargé du développement. Et
exact.
Du coup,
t'as vu comment ça apparaît là, le popping là ?
De quoi ?
Ouais, il y a un popping, petit popping des magique.
Et
non,
du
mais c'était fait exprès dans le trailer en fait.
On est arrivé.
On va te mettre un mute à toi. Hein.
Mais putain.
On va te mettre un mute.
Mais c'est Camille parlait de Anno 1800.
Donc comme son nom l'indique, Anno 1800, on fait donc un.
C'est un jeu de
un
quoi
bon passé,
de
un jeu de gestion.
Gestion historique.
Le précédent épisode était dans le futur.
Les turfus, même, je dirais.
Et du coup là, bah, c'est un plaisir de retourner dans le passé, surtout que bah, le 19e siècle, c'est quelque chose de.
Bah,
très
c'était mieux avant. Hein.
De quoi?
C'était mieux avant.
Ouais, ouais.
Bah Camille qui adore l'histoire,
bah,
forcément oui. Pour toi ça te parle plus que.
Bah ça me parle plus.
Que le futur de façon qui n'existera pas. Donc voilà.
Exactement.
Comme ça.
Bah et quoi que tu sais que c'est un futur qui t'aurait plu parce que c'est un futur très.
Ah oui, y a plus de cons. Ah bah putain ouais.
Non, mais c'est un futur beaucoup basé sur la protection environnementale, etc.
Ah bah voilà.
C'était
parfait.
Vachement intéressant.
Si seulement.
Comment c'était fait. Alors que là c'est l'inverse parce que ça parle de l'industrialisation.
Ah bah là
du
oui.
Coup, du début de la pollution.
C'est là où ça commence.
C'est
les
là
emmerdes.
Ça commence où les emmerdes commencent. En fait on commence. Notre alors comment comme par où pour commencer, on commence en fait en Europe.
We can't wait, Gameblog.
Et ouais, on commence en Europe et du coup on a la possibilité par la suite de découvrir, enfin de nous installer dans un second continent qui est l'équivalent des États, enfin de l'Amérique du Sud,
l'Amérique, ouais.
Puisque en fait le jeu ne reprend pas une géographie précise et historique. Ça reste fictif, mais le cadre en lui-même reste historique. Enfin, c'est très particulier, Anno, mais ça fonctionne très bien. Après, tout ce qu'il y a autour, évidemment, c'est historique. On commence en 1800 et on doit mener notre cité vers le développement, développement intensif jusque à la fin des années 1800. Donc,
Là, c'était pas développement durable. Là, c'était
développement
de merde.
C'est la grosse machinerie, le charbon, etc.
N'empêche, quand il pense, c'est fou. Hein. Comment on a tout niqué en 200 ans, en fait.
Bah, ouais. Bah surtout que là, cette période, ouais, c'est particulier. Et on la voit et en plus on y participe activement puisque au début on va arriver avec quelques colons qui vont devoir installer une cabane de pêche, avoir un avec son petit bateau, aller partir faire un peu de pêche, etc. On va devoir nourrir donc grâce à ça nos premiers colons. On va installer des petites maisons pour qu'ils puissent y vivre. Évidemment ils vont avoir des besoins, donc on va devoir construire un marché. Ensuite c'est un effet domino. Le marché va attirer de plus en plus de monde et il y aura du coup besoin de d'autres ressources. Ensuite on aura besoin, parce qu'il y aura beaucoup de monde, de comment dire, j'oublie mes mots, d'activités, voilà, on aura besoin d'activités, etc. C'est là que le jeu fait fort, c'est que dans Anno 1800 il introduit toutes les activités en fait, qu'elles soient intellectuelles ou autres, qui ont fait le charme de ce siècle, notamment les expositions universelles. Et ça c'est vraiment un des gros plus de cet épisode, c'est que chaque X temps va pouvoir organiser une exposition universelle. Ça va faire venir énormément de monde, donc notre économie va être florissante.
Est-ce que tu vas construire une tour Eiffel?
Tu sais que tu peux construire des monuments. Après, la tour Eiffel, ils me sont pas à la revue, mais tu peux effectivement construire des monuments en rapport avec l'exposition universelle. Et c'est vraiment, vraiment hyper bien foutu. Pour ceux qui sont premium, vous pouvez vous rendre compte, c'est vraiment, vraiment de toute beauté.
Ah, c'est très beau.
Les effets sur l'eau en particulier sont splendides. Et on ressent vraiment cette différenciation entre le monde européen au début du jeu et ce monde un peu exotique qu'on ressent par la suite. Puisque le 19e siècle, on est en pleine période orientaliste. Donc vraiment, l'Occident a ce désir de l'Orient. Il le fantasme presque, que ce soit à travers l'art, que ce soit à travers la culture aussi, et ça on le ressent vraiment. On a par exemple, on peut organiser des expéditions pour aller chercher des animaux exotiques. Alors forcément, c'est pas hyper bien pour eux, mais en tout cas, on peut le faire.
Pour les enfermer dans un zoo,
bravo! Effectivement,
à l'époque, c'est sûr qu'on pensait pas à ça. Hein. On s'en foutait.
Oui,
on voulait apporter,
totalement,
comme tu dis, l'exotisme en Occident.
On apportait du coup, on peut amener comme ça des éléphants, des tigres, etc., ouvrir nos zoos.
Salaud de trappeur!
C'est ça, et on peut avoir une sorte de micro-management du zoo, c'est hyper intéressant. Alors, ça, c'est pas aussi profond qu'un zoo tycoon, mais on a quand même cette opportunité.
Ah oui, il y a quand même ça.
Ouais, c'est vraiment...
Attends, mais c'est super dur à gérer, du coup, parce que si tu dois gérer chaque petite partie que tu dois faire,
ça a l'air ultra complet. Ouais.
c'est ultra complet.
Bah, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment lancé dans ce genre de jeu. Hein.
Mais sauf que là,
c'est tellement complexe.
Ça concerne quand même justement les nouveaux joueurs, puisque le jeu est fourni d'un tutoriel qui est extrêmement poussé.
D'accord.
Un tutoriel qui est extrêmement poussé, qui nous apprend de A à Z comment fonctionne le jeu. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui est totalement néophyte.
C'est plus accessible.
Ouais, d'accord. Quelqu'un qui est totalement néophyte peut très bien y trouver son compte. Mmh. Et justement, le studio me l'avait bien dit à la Gamescom l'année dernière, ils veulent aussi, outre les fans hardcore du jeu de gestion ou de la série Anno, attirer les nouveaux joueurs. Et franchement, ils y arrivent de la plus belle des manières. Après, quand tu disais sur la gestion des trucs, je finis juste le truc. Contrairement à certains jeux de gestion où tu dois subir la construction des bâtiments, là en fait les bâtiments tu les poses et ils se construisent directement. Et donc du coup t'as tout un aspect qui aurait pu être complexe et un peu redondant qui disparaît automatiquement et qui est vraiment bien foutu. Ouais, du coup tu.
Ouais, non, oui, Jenny, on voit défiler les images depuis tout à l'heure. Et
Je voulais
souligner le design des habitations. Alors,
le design même.
Où en fait on retrouve, moi ce que j'ai cru voir, c'est de la Nouvelle-Orléans un peu. Mais non, j'ai vu Paris en fait.
Ouais, bien sûr.
On a les bâtiments de type haussmannien. Ouais. Et alors ça m'a fait délirer parce que c'est ce que tu disais par rapport aux expos universels. Alors j'ai vu un bâtiment popé comme ça à un moment dans la vidéo.
On voit les
bâtiments de l'expo universelle de Paris. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant ils entouraient le Champ de Mars. Maintenant il ne reste plus que le grand et le petit palais.
Ouais.
Parce que ceux qui entouraient le Champ de Mars ont été démolis à la fin de l'expo. Mais donc c'est des bâtiments qui vont apparaître dans le jeu là où on voit c'est des bâtiments avec les toits en verre magnifiques.
Comme au Grand Palais.
Mais du coup ça va de quelle époque? À quelle époque précisément?
Bah, ça commence en 1800 et ça termine en 1899 quoi.
D'accord.
Plus ou moins, c'est pas une date précise, mais comme tu le dis justement, Johnny Wan, en fait le jeu s'inspire alors de deux choses différentes, le Paris donc haussmannien et la période victorienne, le Londres victorien, notamment dans tout ce qui est usine, tout ce qui est bâtiments en briques, etc. Ça c'est très victorien. Idem pour les bateaux, on a ce mélange très esthétique de bateaux qui est à la fois avec des voilages,
des voiliers,
et en même temps un système de vapeur pour pouvoir
bien polluer
quand il y a plus de vent, mais bien polluer effectivement. Et aussi ce côté Nouvelle-Orléans, pourquoi t'as retrouvé ça? Parce qu'en fait quand on découvre, enfin l'Amérique est déjà découverte,
là c'est le Mexique là.
Exactement, quand on découvre le truc on peut placer comme ça nos bâtiments et on a nos colonies entre guillemets, elles s'inspirent de tout ça quoi.
Et dans le jeu t'es obligé d'aller d'aller ailleurs en Amérique du Sud etc, ou tu peux rester juste en Europe?
Tu peux rester en Europe mais du coup tu perds une grosse partie du truc parce qu'en fait
tu vas être limité quoi.
Ouais, en fait tu peux organiser des expéditions donc notamment pour les animaux mais pour autre chose aussi, pour l'art tu peux ramener
pour les épices et tout ça,
exactement, les épices aussi, les expéditions archéologiques, et du coup tu pourras ramener des œuvres des œuvres étrangères et les ramener dans des musées, du coup faire découvrir d'autres cultures à ton peuple, et c'est vraiment hyper intéressant.
Ah oui, c'est très très complet quoi.
Et les ressources aussi, effectivement t'as des ressources qui sont propres à l'Occident, enfin l'équivalent de l'Europe, et propres à ces colonies, et du coup tu vas pouvoir comme ça ouvrir de nouveaux marchés, faire des marchés aux épices, faire découvrir de nouvelles teintures pour les vêtements, etc. etc. Et c'est vraiment très très complet et surtout très bien foutu quoi. C'est-à-dire quand on zoome dans notre ville on voit vraiment chacun de nos
gens qui mettent leurs occupations,
là on le voit très bien.
Ouais, on voit, c'est juste incroyable.
On a des fois des grèves, donc on voit les petits gars et les femmes avec des petites pancartes, etc., qui vont faire grève, et ça
donc toi tu dois remédier à cette grève justement.
Alors, tu peux soit
soit les jeter dehors,
subvenir aux besoins des grévistes, soit au contraire ne pas les écouter et faire continuer une industrie de plus belle.
D'accord.
Ça prend en fait en compte toutes les avancées politiques, sociales, etc., qui ont eu lieu au 19e siècle. Donc, comme c'est une période très large, ça permet d'avoir accès à plein de choses. Pareil, ça, cette période-là aussi, on a pu voir les incendies où les pompiers ont commencé à avoir vraiment un système de pompiers très, très important et qui a commencé à se démocratiser dans tous les pays européens. Mmh. Et ça, on va pouvoir le voir. Les eaux dont je parlais tout à l'heure, là, pour les premiers, on peut le voir à l'écran. Mmh. C'est vraiment très, très complexe, très, très complet. On a aussi toujours un système de. La mer est très importante puisqu'on fonctionne via un système d'îles, et du coup les bateaux, on a des flottes marchandes entières à gérer pour aller chercher des marchandises en Orient, ensuite les ramener à bon port. On a toujours ce système aussi de alors ce sont pas des ennemis à proprement parler mais ils peuvent le devenir, ce sont des gens d'autres seigneurs, d'autres leaders qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, soit d'un point de vue économique et donc du coup essayer de saborder votre économie, ou au contraire pouvoir vous déclarer la guerre. Et du coup c'est la guerre a lieu uniquement par système naval, il n'y a pas de bataille terrestre, hein, c'est plutôt naval.
Mais oui, c'est pas fait pour ça.
C'est pas fait pour ça, mais c'est un petit plus qui est, voilà, on va pas cracher dessus, c'est vraiment hyper bien. Et aussi vous pouvez voir à l'écran les croisières, puisque les croisières, c'est le 19e siècle, c'est l'apogée des croisières. Enfin, on va dire que c'est plutôt l'âge d'or des croisières. Et du coup, on va pouvoir comme ça organiser des croisières en Orient. Et c'est vraiment, vraiment hyper bien foutu. C'est un voyage de chaque instant. Et surtout, cet aspect orientaliste est vraiment hyper, hyper prenant. Si vous êtes admirateur et amateur d'art orientaliste, franchement, vous allez y trouver votre comble. Puisque c'est chaque panorama est une ode aux peintures orientalistes. Et c'est vraiment très, très beau. Et c'est très complexe aussi. Et franchement, vous en avez pour une partie simple. Vous en avez pour 50 heures facilement.
Ah, cool. J'étais pas assez occupé en plus en ce moment. Ouais.
C'est ce qu'on se disait.
Nickel.
Par contre, j'imagine qu'il faut quand même un PC assez costaud, non?
Alors, si tu
quand tu vois tous les détails et
Si tu veux en profiter dans les meilleures conditions, il faut effectivement, certes, un PC puissant, mais le jeu est très accessible pour un PC de petite envergure, très honnêtement. Vous aurez évidemment pas tous les effets techniques qu'on peut avoir dans les versions haut de gamme, mais ça reste quand même vraiment très joli, quoi.
D'accord. Et surtout, comme tu l'as dit, très accessible.
Très accessible,
pour ceux qui connaissent pas trop.
Le tutoriel dure 5 heures, je crois.
Et qui veulent se lancer. D'accord,
4 heures ou 5 heures. Donc, on a quelque chose de très, très
intense. Donc, avec cette base de 4-5 heures, a priori, tu peux te lancer.
Elle permet de se lancer. En fait, le tutoriel, c'est aussi l'histoire. En fait, l'histoire fait office de tutoriel, puisque après, la grosse partie jeu, c'est le mode bac à sable, qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Et franchement, je vous le conseille, c'est un délice de tous les instants, quoi.
C'est rien que visuellement là, t'as envie d'être dedans, quoi. C'est super super beau. Écoute, merci beaucoup pour ce test d'Anno 1800, donc.
Il y a 8 sur 10 avec indispensable.
8 sur 10 indispensable sur Gameblog sur le test, si vous voulez aller lire.
Exactement.
Ce qu'a écrit Camille. N'hésitez pas une seconde. Le second test de Camille, c'est
World War Z.
Rien à voir.
Ouais, alors là, World War Z. Du coq à l'âne, c'est un jeu développé par Saber Interactive, qui est ce qu'on pourrait nommer un Left 4 Dead-like. Alors, Left 4 Dead-like, il y a beaucoup de studios qui s'y sont frottés et beaucoup se sont pris un mur, effectivement. Beaucoup ont échoué à la tâche.
Sauf Vermintide,
oui, mais c'est pas le seul, il y en a aussi quelques-uns. Mais là, ces derniers mois, on a eu vraiment des jeux qui ont eu beaucoup de problèmes.
Ne serait-ce que les créateurs de Left 4 Dead eux-mêmes, ils se sont pris un vent derrière.
Non, ils ont juste perdu la licence, en fait.
Ouais, mais quand ils ont sorti Evolve,
Evolve, c'est pas un Left 4 Dead like. Evolve, c'est un jeu totalement à part. Hein.
C'est un jeu évolué.
C'est des monstres à la place des zombies.
Ouais, mais il y a un gros monstre.
Il y a un seul gros monstre. C'est un jeu de chasse.
Ouais.
C'est un jeu de chasse, ouais.
Mais c'est vrai que tous ces jeux-là, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés presque.
C'est une mode, tu sais. C'est super bizarre.
Mais justement, le Left 4 Dead like est en train de revenir sur le devant de la scène. Déjà, Turtle Rock, qui ont créé et développé Left 4 Dead vont créer leur propre jeu. Ils ont plus la licence, mais c'est exactement la même chose. Ils ont juste le nom qui est plus le même.
Ouais, Dead 4 Left, c'est ça qui s'appelle.
Non, mais tu sais que c'est presque ça. Hein. Il y a le fort au milieu et c'est quasiment ça.
C'est n'importe quoi.
Survive for je sais plus quoi.
For Life.
Non, mais c'est vraiment ça.
Over the Dead.
Et c'est le Left 4 Dead 3 que les gens attendaient, quoi. Et donc ce World War Z, la seule différence avec le Left 4 Dead classique, c'est qu'au lieu d'être un FPS, c'est un TPS.
Oh, Paris.
Là, c'est la licence aussi. Qu'on connaît, donc
C'est la licence donc World War Z qui est, alors World War Z, il y a
un roman d'abord,
qui est un excellent roman, je vous le conseille, et surtout ensuite un film. Pourquoi surtout
super
un film,
chelou,
puisque
comme film, mais...
puisque le jeu en lui-même s'inspire plus largement du film que du roman, film avec Brad Pitt qui est sorti en 2013, et d'ailleurs il nous fait revivre tous les lieux, enfin quasiment tous les lieux qu'on a vu dans le film, à savoir les USA. Donc là c'est pas Philadelphie comme dans le film, mais c'est New York. On a ensuite l'Israël, on a ensuite le Japon et la Russie. Donc des lieux qu'on voit
j'ai vu un panneau de métro parisien.
Non, pas du tout.
On aurait dit genre une nuit.
C'est
9.
Faux. On n'a pas Paris, non.
Ouais, non.
Bon. Ça a été plus ou moins teasé pour la suite, mais pour l'instant, Paris n'est pas présent. On a donc 4 chapitres qui permettent de faire un beau voyage à travers le monde et qui permettent de d'ouvrir des expériences différentes. On a chaque fois.
C'est pas comme ça que je vivrais un beau voyage, expériences différentes. Moi, je vois des armées de zombies qui cavalent plus vite que Usain Bolt.
Oui, mais quand t'es chargé de les exterminer, tu t'en fous, c'est rigolo.
Non, mais c'est un jeu qui quand même nous enfin Israël, on peut pas dire que ce soit une destination qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo. Donc c'est vraiment une destination qui permet de découvrir le pays, et c'est très sympa, et ça change vraiment, surtout que chaque fois on a 4 personnages différents, évidemment, selon le pays, bah, on a quatre personnages qui sont voilà, différents. Le jeu, nous, vous avez compris, nous fait faire face à des hordes de zombies. Et la petite subtilité, c'est que ce sont pas des zombies lents à la
Dead.
Pour le coup, c'est plus ce qu'on appelle des infectés dans le jargon, c'est-à-dire des hordes de créatures. Qui tapent vraiment des sprints et qui sont des centaines. On a vraiment des centaines
des millions même, je dirais même.
Et c'est hyper prenant et hyper jouissif et ça fait monter la jauge d'adrénaline. Là vous pouvez voir à l'écran les différents trailers qui sont sortis avant pour la sortie du jeu sont pas avares en informations là-dessus. C'est vraiment ce qu'on va ressentir quoi. On a des centaines de zombies qui vont arriver partout, on va shooter dans tous les sens.
On dirait que c'est impossible à arrêter quoi.
C'est ça, c'est cet aspect un peu de vague, tu sais, qui nous submerge. En mode facile et normal, ça va très clairement, hein, honnêtement on va pas se mentir. Le jeu jouit de 5 modes de jeu, 5 modes de difficulté, et dès qu'on commence à monter en gamme, c'est que la difficulté se fait ressentir, notamment en mode difficile où là ça, vraiment les choses sont assez chaud à faire, assez chaud à réaliser, et où on va vraiment commencer encore et encore les différents niveaux. D'ailleurs c'est le principe même du Left 4 Dead like, hein, c'est de recommencer à chaque fois dans un niveau supérieur.
Mais qu'est-ce que ça t'apporte ça justement de
en fait ça apporte pas grand chose, c'est le plaisir de la satisfaction d'avoir réussi le niveau
dans le mode de difficulté le plus élevé voilà.
Avec tes potes
puisque évidemment c'est un jeu entièrement en coopération où la coopération est très importante. Si jamais un de nos petits camarades traîne un peu la patte, tout de suite il va se faire...
On l'achève direct déjà pour commencer.
Voilà. De toute façon, pas besoin de l'achever puisque les zombies vont le faire pour nous. Et pareil, si y a un mec un peu trop insistant et qui va essayer de rusher en avant, il va se faire attraper par un zombie spécial. Puisque le jeu a aussi des zombies spéciaux, notamment... alors on a plusieurs, il y a l'équivalent dans Left 4 Dead de celui qui nous saute dessus. Qui permet de nous attraper, etc. Et on a aussi les zombies qui émettent du gaz, qui sont en combinaison jaune
azmat, on a vu tout à l'heure,
et qui permettent de créer des zones un peu d'inconfort où on va devoir progresser rapidement. Et bien le jeu, franchement, je vais pas vous le cacher, au début j'avais une petite appréhension parce
que c'est ce que tu nous disais.
Parce que déjà on l'a reçu, pour tout vous le dire, on a reçu le jeu très tard, on l'a reçu le jour de la sortie du jeu,
trop tard même je dirais,
trop tard. Le jeu n'avait été montré à aucun événement, il devait être présenté il y a 2 mois, ça a été annulé au dernier moment. Donc ça sentait pas forcément très bon pour ce jeu.
Et ben en général c'est pas bon signe,
en général c'est pas bon signe quand ça se passe comme ça. Et ben malgré tout le jeu est une bonne surprise. Il est très intense. Il est très bien réalisé. On trouve un peu... le côté TPS apporte une belle plus-value. Alors, à certains égards, oui, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, un beau panorama de ce qui va nous arriver sur la tronche, donc tous ces zombies qui nous arrivent dessus. Après, le jeu propose aussi un mode multijoueur, outre ses campagnes. Et là, le mode TPS est un peu plus problématique, puisque il permet un peu de tricher, entre guillemets, où en fait, t'as un système de couverture, mais qui sert pas forcément à grand-chose, puisque tu peux tourner la caméra et du coup tricher et voir les ennemis. Et c'est un peu problématique. En FPS, ça serait beaucoup plus sympathique. Mais après, voilà. Le mode TPS fonctionne très bien.
Ça fait beaucoup penser à Days Gone dans son premier trailer.
J'allais le dire,
il y a beaucoup de Days Gone. Ça fait un peu ce que Days Gone apparemment n'arrive pas à faire totalement avec ses hordes de zombies. Puisque là, les hordes de zombies, elles sont pas juste à certains moments, elles sont tout le temps. Et dès qu'on fait un peu de bruit, ça y est, il y a des hordes de zombies. D'ailleurs, ça permet juste de parler un peu des points négatifs. On a un peu un système de couverture et d'infiltration, mais honnêtement. Ça fonctionne pas vraiment parce qu'on a des armes silencieuses, mais très vite on va se rendre compte que on va devoir tirer dans le tas.
Ça sert pas à grand chose.
Ouais, ça sert pas à grand chose.
En fait, c'est le but du jeu, c'est de tirer dans le tas aussi. Quand même.
Le but du jeu, c'est ça. C'est un immense défouloir.
C'est pas un truc de furtivité, c'est pas possible.
C'est pas un truc de furtivité, mais ils l'ont quand même un peu vendu comme ça à certains moments où ils nous ont dit attention, si vous êtes pas assez silencieux, des hordes de zombies massives vont vous arriver sur la tronche, malheureusement. Ça, c'est... On est surtout des phases d'action et notamment ces phases un peu stressantes.
Des montagnes de
zombies. Si vous avez vu film de 2013,
voilà, c'est exactement
c'est
ça.
Vraiment ça quoi. Ils se montent dessus pour arriver à des points hauts et c'est très sympa. Il y a un système de classe qui fonctionne bien, qui est très complémentaire, aussi de défense. Vous voyez à l'écran on peut placer des mitrailleuses à certains endroits. En fait les armes on les trouve via des caisses disséminées dans les environnements et ça permet comme ça de récupérer des caisses avec des défenses. Alors la défense c'est soit les mitrailleuses, soit des tourelles automatiques, soit tout simplement des barbelés qu'on place sur le sol et qui permettent de stopper les zombies.
Bah, en tout cas, c'est, moi je trouve que ça donne quand même envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
bah, ouais, ça donne envie de tirer dans le tas, quoi.
Question con. Est-ce qu'ils ont mis le succès tuer 53 467 zombies?
Non, pourquoi?
Ah, c'est un succès.
C'est dans Dead Rising, ça, non?
Ouais, c'est dans Dead Rising.
Avez-vous la référence?
C'était même un truc assez rigolo parce que Dead Rising a commencé en demandant de tuer 54 767 zombies. Après, t'avais un autre jeu de zombies qui était sorti qui avait mis le même succès, mais avec un de plus. Ensuite, t'avais un autre jeu qui était sorti, mais avec deux fois plus, mais exactement le même chiffre fois deux. Donc, je me demandais, ça aurait été rigolo que le succès 54 000 zombies soit dans ce jeu-là aussi. Non, ça s'y prête très bien.
Ils l'ont pas vu, mais c'est en tout cas pour faire cette transition-là, c'est vrai que bah, dans Dead Rising, c'est comme dans Bakinette, c'est des zombies assez lents. Et là, bah, c'est vraiment une autre approche du jeu de zombies, quoi. C'est des infectés qui nous courent après, c'est encore plus intense que Left 4 Dead. Parce que dans Left 4 Dead, c'était des infectés, ils sprintaient, etc. Mais là, ils sont un nombre tellement important.
Ah bah là, oui, oui. Ils sont pas 3 ou 4, ouais, là, ils sont 150, 200, 300.
C'est très stressant quand on est dans les difficultés élevées, quoi. Donc, c'est une très bonne pioche, un jeu de survie que je conseille amplement.
Et qui cartonne en plus.
Et qui cartonne puisqu'il s'est vendu à 1 million d'exemplaires en à peine une semaine.
En quelques jours. Bah, je pense, preuve qu'il était très attendu et preuve que les licences aussi.
La licence marche aussi, ouais.
Si, après, toutes les licences ne fonctionnent pas, mais certaines, si, quand il y a des zombies, ça fonctionne.
Bah, World War Z, le
Matrix
film a très
aussi
bien marché,
fonctionne.
Matrix aussi, mais bon.
World War Z, c'était à l'époque.
World War Z a très bien fonctionné. D'ailleurs, le film est très bizarre, mais bon.
Comme le 2 a été annulé il n'y a pas si longtemps.
D'accord.
Je pense que les gens sont contents de retrouver ce film.
Ils se rabattent sur ça, ouais.
Via le film, ouais.
À mon avis, le film, oui. Je pense que le jeu est mieux que le film, mais bon, c'est un avis personnel.
Oui, après.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. D'ailleurs, on lui a mis combien? Tu l'as mis combien?
On lui a mis 7.
7, c'est ça, d'accord.
Parce que c'est pas la. C'est
oui,
pas
il manque parfait, quelque chose. C'est assez basique, mais bon.
C'est, ouais,
c'est un bon défouloir, quoi.
Ça manque de contenu. On aurait aimé plus de chapitres, mais pour l'instant, c'est très bien.
Tout à fait. En tout cas, bonne pioche effectivement pour, pour ce titre qui était plutôt sympa.
Non, j'ai vérifié, ils sont débiles, ils ont mis un trophée tuer un certain nombre de zombies, mais ils ont mis 10 000. C'est nice.
Ah, 10 000, tu fais ça bah en quoi ouais. En 25 minutes.
Ils auraient dû mettre dans le jeu 54 267.
Ouais. Oui, c'est vrai que ça aurait été une belle référence.
Ça aurait été une belle référence.
Tout à fait. Et bien voilà, les trois thèmes sont maintenant achevés, n'est-ce pas, pour ce podcast de la semaine. On va passer à l'anniversaire, ma chère Plume.
Ouais, et on va tourner vers Johnny Wan.
Joyeux
Il s'en rappelle comme si c'était hier. Moi.
Et bien voilà. Alors, Johnny Wan, de quoi tu veux nous parler? C'est quoi l'anniversaire de la semaine?
Alors, bah, c'est le mien. Non, je déconne, c'est pas
t'as 25 ans.
Non, c'était il y a quelques semaines, le mien. Ouais, alors non, aujourd'hui, bah, c'est Majora's Mask.
Exactement.
Un jeu de la saga Zelda qui
que je n'ai jamais fini, je sais pas pourquoi.
Moi non plus, je n'ai jamais fini.
Alors que j'adore, final, mais j'ai jamais terminé.
Mais c'est vrai que je l'adore. C'est pas que j'ai jamais terminé, je suis arrivé à la fin, mais j'ai jamais déclenché la fin. Je sais pas comment dire.
Parce que t'as eu peur
c'était un peu complexe, hein, pour
moi. T'as eu peur de la fin, en fait.
Ouais.
Et les sorties quel jour?
En gros, j'ai fini le jeu, je suis arrivé au boss de fin et je suis pas allé battre le boss de fin. D'accord. C'est pas le premier Zelda avec lequel je fais ça.
C'est sorti quand, alors?
Alors, c'est sorti.
Le
27 avril 2000.
Voilà. Donc, cela
19 ans.
19 ans.
Quasiment 19 ans,
19 ans, donc, c'est sorti sur 64.
Oui.
Il fallait à l'époque le RAM pack. Pour y jouer.
Oui, obligatoire.
Voilà, si tu ne l'avais pas.
Comme son nom l'indique, ramener un peu de RAM.
Voilà. Mais bon, de toute façon, t'avais déjà acheté Perfect Dark à l'époque, donc c'est bon, t'avais déjà ton RAM pack.
Exactement.
Voilà. Donc, eh bien, c'est un jeu très particulier, c'est un jeu culte dans la saga Zelda. Ouais. Moi, je trouve, c'est un des plus cultes et c'est un des plus particuliers.
Mais tout le monde dit que c'est presque le meilleur Zelda pour
moi.
Pour moi, non, mais.
Pour moi, ce sera jamais le meilleur.
Pour la majorité des gens, c'est lequel pourtant?
Link's Awakening.
Ouais, pareil, Link's Awakening aussi.
Mais le truc, c'est que surtout, il a changé énormément de choses. C'était la formule était complètement chamboulée. C'était pas du tout un tout Zelda comme on le connaît, comme on les connaissait.
Alors, c'était un petit peu plus dark, quoi.
Dans l'univers d'Ocarina of Time, totalement différent.
Pas forcément plus dark parce que t'as quand même le petit Link mignon.
Ah non, c'était super dark.
Si, c'était
Il change, en fait, c'est au niveau de son concept de jeu où on va avoir un jour sans fin. C'est un jour sans fin. Alors en fait, chaque Zelda, depuis le premier sur NES, a une petite particularité de gameplay. Alors ne parlons pas du premier. Le deuxième, lui, c'est qu'il est en vue de côté à certains moments. Le troisième, Link to the Past, sa particularité, c'est de découvrir un monde parallèle. Tu sais, tu navigues d'un monde à l'autre, tes changements dans un monde font des changements dans l'autre, etc. Enfin, vraiment deux mondes superposés l'un à l'autre, les dimensions parallèles. Ensuite, le jeu suivant dans la saga, c'est Ocarina of Time, qui lui te propose des voyages dans le temps. Voilà, où à un moment ton héros va être grand, va être petit, ce que tu fais dans le passé aura une influence sur le futur, etc. Et là, ce cinquième jeu débarque avec encore un nouveau concept. Voilà, donc après les voyages dans le temps, après les univers parallèles, et ben là on se retrouve avec un jour sans fin. on va reprendre toujours les trois mêmes journées où en fait la lune fonce sur la Terre, va s'écraser sur la Terre et se cracher et détruire toujours. Le monde. Voilà.
Je pense que c'est un signe.
Et en fait, 10 minutes avant ce crash de lune, bah, qu'est-ce qui se passe ? Link se retrouve repropulsé dans le passé 3 jours avant, où il a de nouveau 3 jours pour essayer d'aller sauver le monde. Alors c'est rigolo parce que tous les 3 jours, bah, le monde se reset, mais forcément, il y a un petit espèce de petit aspect, est-ce qu'on pourrait dire ça, roguelite, je ne sais pas. Ou bah par contre Link, les objets que lui il a récupérés durant ces 3 jours-là, bah lui il les garde et du coup il pourra aller s'en servir au premier jour.
Passer comme ça, exactement.
Voilà, pour avancer dans l'histoire. Donc ce concept-là qui est assez extraordinaire, hein, qui fait appel à des films géniaux comme par exemple Un jour sans fin avec notre cher Bill Murray.
Exact.
Ou plus récemment le film avec Tom Cruise Edge of Tomorrow. Mm. Voilà. Donc c'est un concept qui est vraiment génial, qui fait de ce jeu bah, un jeu à part. Tout simplement
de, la saga par, Zelda,
de par
ouais.
son scénario oh, voilà.
C'est très bizarre avec sa galerie de personnages aussi hein. Il y a beaucoup de persos qui sont vraiment Zarbi mais Zarbi chelou même
hein. Ouais. La saga n'a pas fait autant n'a pas eu autant d'originalité dans sa suite. Par exemple là, je reviens sur les spécificités. T'as le Link's Awakening, c'est le rêve. Les jeux d'après sont moins originaux. Tu prends un Skyward Sword, qu'est-ce qu'il a pour lui, pas grand chose. Tu prends un Toilette Princess, lui tu transformes en
toilette
chien.
Toilette Princess, hein, c'est ce que j'ai entendu. d'accord qu'on l'entend, Toilette Princess. Okay.
J'aime pas trop ce jeu.
Ouais.
Et,
après Blue Beat, Princesse de la Toilette.
Et voilà. Donc, moi je trouve que c'est le Zelda le plus original en fait de tous, de par ce concept
chelou.
D'un jour sans fin. Son ambiance aussi qui fait que c'est très particulier en effet. Hein. Comme tu dis, l'espèce d'aspect dark de fin du monde, etc. Là, on revoit le petit méchant, là, je sais plus comment il s'appelle. Skulltuala, je sais plus quoi.
Skullkid.
Skullkid.
Ouais, c'est ça. Skullkid.
Voilà, Skulltuala, c'est les petites araignées qu'on a défoncées dans le jeu.
Exact.
Tu vois, le méchant n'est même pas Ganon dans celui-là. Voilà.
Donc ils ont vraiment pris un parti pris différent.
Pris un parti pris différent. Et je sais que ce jeu, bah, il est considéré comme je pense pas la plupart des fans de Zelda comme un des meilleurs jeux de la saga de par son originalité qui fait qu'il est vraiment 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 à part.
Et on peut y jouer sur 3DS, c'est cool ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire justement.
T'as une version 3DS qui est sortie avec un steelbook d'ailleurs en version collector. C'est rigolo parce que
t'en souviens bien.
J'avais la console aussi.
Je l'ai à la maison. Alors moi j'ai pas acheté cette console là.
Ah bah bravo.
Parce que j'ai acheté donc une New 3DS le jour où c'était le jeu qui accompagnait la sortie de la New 3DS.
New 3DS XL.
Voilà. Donc il y avait la New 3DS XL Zelda. Non, moi j'ai pris la Monster Hunter qui avait à côté.
Ah, bah, oui.
Voilà. Donc j'ai pris le jeu Zelda, mais j'ai pris la console Monster Hunter.
Quelle classe.
Donc avec un tout petit steelbook qui est un steelbook trop mignon, qui est un steelbook au format des.
Bah oui, logique.
Des boîtiers DS.
Il y avait la statuette de Skull Kid aussi dans certaines éditions. Ouais. Je crois que c'était réservé
alors,
à Micromania.
Alors la statuette de Skull Kid, c'était Micromania qui te l'a filé.
Si quelqu'un voulait envoyer à Johnny One, et
bah, je l'avais eu la statuette, mais je m'en suis débarrassé.
Ok. Alors.
Et autre petite particularité sur 64, la version originale, la cartouche avait une magnifique couleur dorée.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Ça faisait partie des cartouches dorées qui marquaient un petit peu les jeux différents.
Voilà, donc je
vais parfait pour cet anniversaire. Bravo, Majora's Mask, donc 19 ans.
19 ans, putain.
Le 27 avril. Parfait, parfait.
Ouais.
Nickel, ben voilà, on a fait le tour de presque tout, sauf du hors-jeu. Le premier hors-jeu, Plume.
Oui.
Quel est-il ?
Ah, eh bien écoute, hors-jeu exceptionnel,
oui.
Spécial aujourd'hui parce qu'on est le 24 avril.
Sans
et
spoiler.
Que sort aujourd'hui, et peut-être que certains l'ont déjà vu, Avengers Endgame. Je vous promets tout de suite que je vous aurai avoir zéro spoil, de toute façon c'est pas le but de la chronique. Avengers Endgame est très attendu, peut-être le film le plus attendu de tous les fans de super-héros ou de pop culture de manière générale. Je préfère vous prévenir tout de suite, tout ce que vous avez vu dans les trailers jusqu'à aujourd'hui, ça ne représente rien. C'est que dalle par rapport à la globalité du film qui fait donc 3 heures et 2 minutes.
Logique.
C'est un film extrêmement long, mais c'est surtout un film qui passe extrêmement vite, tellement il se déroule un nombre de trucs incalculables à l'écran. Ça a le mérite de reprendre au début et de faire un petit arrêt au stand par rapport aux grandes émotions qu'on a eu à la fin de Infinity War. Ça s'attarde un peu.
Et de tous les autres films de l'univers.
Bah surtout d'Infinity War,
la guêpe, notamment.
Oui. Bah quoi ?
Bah ça se finit comme Infinity War.
Ah oui oui, c'est vrai, oui, effectivement. Le Ant-Man et la Guêpe qui se finit sur la disparition de certains personnages. Désolé pour le spoil, je voulais pas en faire, mais voilà, Johnny l'a fait pour vous.
Génial.
Et donc,
c'était un spoil d'un film d'avant que t'as déjà vu il y a un an.
Mais peut-être que tout le monde l'a pas vu.
Ouais.
Je regarde, on le voit, on
le voit à l'image en plus là.
Laisse, il peut me finir.
Bon, toujours est-il que il se permet pendant les premières minutes donc de s'attarder un petit peu sur l'après. En fait, ce qui s'est passé après Infinity War, il y a la moitié de l'univers qui a disparu, donc des populations, des familles complètes qui ont disparu. Qu'est-ce qui est arrivé à tous les super-héros et comment ils vivent ça finalement, ces disparitions contre lesquelles ils n'ont pu rien faire, ils ont perdu. Hein, désolé là pour le spoil d'Infinity War, mais ils ont perdu face à Thanos. Et comment ils vont essayer de remonter la pente. C'est un peu ça en fait qui est raconté avec Endgame. Comment ils vont essayer de rattraper le coup en quelque sorte. Alors c'est un film qui est extrêmement généreux, qui est énorme hein, vraiment dans sa mesure, dans sa démesure pour être exact. Vous n'aurez jamais vu autant de super-héros à l'écran, autant de vilains à l'écran. Il y a des combats absolument épiques. Dans ce film, il y a une façon de mettre en avant les différents personnages qui est alors certains vont trouver que c'est un peu dommage pour le traitement par exemple de Thanos qui est plus en retrait par rapport à ce qu'il était dans Infinity War, qui était plus son film qui est toujours super bien joué par Josh Brolin, mais c'est vrai qu'il est il devient un petit peu un personnage un peu plus secondaire dans Endgame, mais on a des autres personnages qui eux sont bien plus mis en avant, notamment l'équipe originale qui est composée de Thor, Black Widow. Ouais. De Thor, de Black Widow, d'Iron Man et de Captain America, qui eux sont beaucoup plus mis en avant dans celui-ci, mais ça pioche vraiment dans tous les films. Si vous n'avez pas vu les 21 films avant, il y a des trucs qui vont probablement vous échapper.
T'as dit quoi, 21 films ?
Il y a 21 films qui ont été faits avant.
J'en ai vu zéro.
Il y a des trucs qui vont probablement vous échapper. Par contre, si vous les avez vus, vous allez avoir un kiff de tous les instants, vraiment, à chacune des références, chacun des petits clins d'œil qui vont être comme ça, disséminés ici et là. Des surprises, vous allez en avoir vraiment énormément, des rebondissements aussi, des trucs auxquels on peut pas s'attendre, logiquement on peut pas s'attendre dans le film. C'est une espèce de c'est forcément un film qui conclut toute une série d'autres films, donc attendez-vous à faire des au revoir, attendez-vous aussi à faire des bonjours, et puis surtout comme je disais, il prend vraiment un peu partout pour parfois s'imprégner à fond de certaines ambiances. Moi je sais que par exemple il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est Ant-Man. Et ben ça devient à un moment un film de braquage comme les Ant-Man, et c'est quelque chose qui est plutôt bien. Il y a Hawkeye aussi qui est extrêmement mieux développé que ce que ça pouvait être le cas dans les précédents. C'était un personnage un peu secondaire vraiment auparavant. Là Jeremy Renner a vraiment beaucoup plus de place qu'auparavant. Nebula aussi. Les déceptions c'est plutôt Thanos et Captain Marvel qui finalement n'apparaît pas tellement, même si elle a vraiment des scènes bien costauds et notamment un petit passage bien précis qui est très girl power et qui fera forcément vibrer les fans. Je sais que dans la salle qui était composée essentiellement de journalistes, il y a eu beaucoup d'exclamations pendant le film, il y a eu beaucoup de reniflements aussi hein, je vous le dis tout de suite. C'est un film c'est un film où vous allez vous extasier, vous allez être surpris, vous allez probablement chialer. Je sais que Romain là qui va le voir dans quelques heures, je suis certain qu'il va chialer comme une madeleine.
Bah, il se prendra des coups de latte,
c'est tout. Il se prendra des coups de latte par trace, exactement. Donc c'est pas du niveau d'Infinity War, parce que Infinity War finissait vraiment de façon extrêmement brutale, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'occasion de voir au cinéma, de peut-être l'Empire Contre-Attaque et encore
Matrix 2, Matrix. 3, Harry Potter 7-8,
mais à ce point là
peut-être Star Wars 9-10 hein, on sait pas encore, peut-être qu'il nous faut une surprise.
Bah, ouais. Déjà Star Wars 9 est bien vénère hein,
peut-être qu'il y aura un dixième en fait, tu sais pas, peut-être qu'il sera
Star Wars 8, pardon. Le Star Wars 8 est déjà bien vénère hein, sur sa fin, mais à l'échelle à laquelle arrivait Infinity War dans la victoire du grand méchant, c'est du jamais vu, à part Final Fantasy 6 pour moi. J'avais jamais vu un truc aussi choquant. Donc vous aurez pas de sensation de choc, parce qu'on va quand même essayer de relever un petit peu les Avengers, de les faire sortir un peu de leur merde. Mais croyez-moi, si vous avez un tantinet d'affection pour cet univers, pour tout ce que ça a impliqué en termes de production, en termes de réflexion, pour mettre tout ça en place, parce que réussir à trouver un point culminant, à trouver une conclusion à quelque chose d'aussi monumental, c'était pas facile. Moi, je pense qu'ils sont super bien sortis et que il faut aller le voir. Quoi qu'il arrive, il faut aller le voir. Pour comprendre, surtout si vous avez vu tout le reste, ça vaut largement, mais alors largement le coup. Et voilà, il y a plein d'hommages aussi que je vous laisserai découvrir et de petites choses très drôles que je vous laisserai découvrir. Et je ne pourrais finir qu'en disant Aïl Hydra, évidemment.
Quelle classe.
C'est pas l'épisode qui clôt la phase 3. Parce que la phase 3, en fait, elle sera conclue avec Spider-Man Homecoming.
On peut dire ce qu'on veut, c'est ça qui finit. Hein.
Ouais, mais non.
La vraie fin, elle est là. Hein,
dans l'esprit de Marvel, non. Mais après.
Dans l'esprit de Marvel, s'ils arrivent à faire quelque chose avec, avec Coming Home, qui soit aussi puissant émotionnellement.
Mais je parle juste en termes de cohérence d'univers. Eux, et c'est pas cet épisode-là qui termine. Quoi.
Bah écoute,
la phase 3.
De toute façon, pour moi, il n'y a pas de cohérence dans cet univers, mais bon, après, si les gens en voient, très bien.
Moi, je vais mettre un peu d'eau dans le vin, un peu d'eau croupie. Déjà, moi, ils m'ont un peu perdu avec tous leurs univers. Ça avait déjà commencé à l'époque de Iron Man 3.
Mais c'est normal.
Dans Iron Man 3, ils te parlent de New York.
C'est normal, c'est pas pour toi. Toi, tu n'aimes que les films de Nouvelle Vague.
J'aime. C'est pas vrai, parce que j'en ai aimé plusieurs de ces films-là. Pris indépendamment sur les 21.
Bon, après, j'ai pas vu les 21. Juste pour te dire, c'est un hors-jeu, on fait que parler de ce film. Donc c'est juste. Juste pour que tu te.
Je vais la faire rapide. Je vais la faire rapide du coup. Du coup, moi, ce qui me déçoit là-dedans, c'est.
Non, parce que tu l'as pas vu.
Non, je l'ai pas vu.
Voilà, donc c'est pour ça. Le principe de hors-jeu, c'est que.
T'inquiète pas, on coupera au niveau de plume.
non mais au cas où juste pour te rappeler
je pars avec un a priori qui est que déjà comme tu l'as dit, le film d'avant il se termine en queue de poisson.
Il
se termine en queue de poisson, il n'y a pas de fin.
Bon,
il
on va pas passer
c'est
notre
le méchant qui gagne avis, hein. Ensuite ils font terminer,
je crois
c'est
que là tu poufiques, tu couperas plus ça, je crois.
Parce que là on n'a pas fini.
Non mais ensuite dis-moi,
c'est ça qui est nul, c'est qu'ils font se terminer les autres films de l'univers au même point en attendant celui-là.
Bah oui.
Bon, moi
je peux pas vous aider, j'y connais rien.
J'imagine que c'est une pyramide et que ça c'est tout en haut.
J'ai du mal avec ce
concept.
Et
t'as les différents flancs sur les
pyramides.
Et au
cinéma, les films en plusieurs parties m'ont toujours fait chier. Et celui-là ne dérangera pas à la règle. Voilà.
Attends, c'est normal.
Tu sais pas, va le voir et puis peut-être que tu vas kiffer.
Va voir, va dormir 3h. Tu l'as vu toi déjà ?
Celui d'avant.
Ah oui, celui d'avant.
Ce que je peux rajouter par contre, c'est ce qui est sûr, c'est que vous aurez pas les réponses à toutes les questions. Voilà. Faut que vous le sachiez.
Voilà, c'était le mot de la fin ou pas. Eh bien, ce n'est pas fini car il y a un deuxième hors-jeu. Camille.
Exactement, le deuxième hors-jeu concerne une exposition Star Wars qui a actuellement lieu et qui se termine au début mai, qui se nomme Star Wars Expo, les fans contre-attaquent, et qui est une exposition toute particulière puisqu'elle n'est pas faite par Disney mais par un fan qui a été organisé.
Quelle classe.
En fait, c'est la plus grosse collection qu'un fan a pu réunir.
Privé d'Europe,
qu'il a pu réunir.
Une collection de quoi ?
D'objets en tout genre de la saga Star Wars. Il y a plus de 600 pièces en tout. Donc ça concerne plusieurs choses. Il y a, comme vous pouvez le voir, pour les premiums.
Ça tue, hein. Même moi qui suis pas fan.
Il y a des statues, il y a des costumes, des personnages grandeur nature, des objets qui ont été utilisés pour le tournage, notamment des sabres laser, des répliques. Le fan en question a reproduit. Le pod racer d'Anakin Skywalker en taille réelle.
Putain, il y a le truc de carbonite aussi.
Ouais, il y a le rancor aussi, taille réelle.
Le rancor malade.
C'est assez hallucinant et tout ça est extrêmement bien foutu. C'est classé par épisode.
Très très fort.
En fait, il y a une salle par épisode. Et du coup, pour un fan de Star Wars comme moi, c'était un peu le rêve. Après, je vous le cache pas, si vous avez pas forcément de tendresse avec l'univers, vous allez pas y trouver votre compte puisque c'est vraiment, vraiment.
Que du goodies quoi.
C'est du goodies, oui. Mais c'est vraiment
du fan service de ouf.
C'est du fan service de ouf quoi. Même pour voir les costumes, c'est pour le plaisir de voir les détails sur les costumes, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de costumes sur des mannequins taille réelle, hein, donc on voit vraiment la taille des personnages avec leurs vraies mesures. Par exemple, on sait qu'Obi-Wan, je sais pas, il fait 1m70, la statue elle-même fera 1m70 tout pile. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Vador, il fait, je sais plus, 1m95, je crois. Voilà. Et ça permet aussi de prendre conscience de la taille de tous les personnages. Qu'on voit dans les films et c'est vraiment bien fait. Alors c'est un peu court dans le sens où Bah, quand on sort de ça, on se dit ah merde, on aurait bien aimé en avoir un peu plus, mais ça reste quand même très très précis pour un fan de Star Wars. On apprend beaucoup de choses, surtout sur les détails quoi. Et c'est une mise en la mise en scène en fait qui fonctionne très bien, avec les effets sonores qui sont dans chacune des salles. On a la musique qui nous rappelle évidemment chacun des épisodes. Ah bah là on voit le pod racer.
C'est Daniel Prada,
le pod racer qui est derrière. Ouais. Et c'est vraiment hallucinant quoi. On a aussi cette espèce de bande qu'on retrouve dans le Destroyer Stellaire et dans l'Étoile de la Mort, le costume de Chewbacca, enfin vraiment c'est vraiment bien foutu. Et la mise en scène aussi des statues est très bien foutue, parce qu'on a plein de statuettes comme ça à différentes tailles, hein, différentes échelles, ça va d'un truc de 5 cm jusqu'à 50-60 cm. On a des armes aussi, et tout est fait pour qu'un fan de Star Wars ne puisse pas dire ah là c'est une incohérence, puisque tout est classé par par ordre d'épisode et par aussi par personnage. Donc on a une partie sur qui concerne les méchants, sur Vador on a tout ce qui concerne Dark Vador, ses sabres laser, son costume, son masque brûlé qu'on voit dans Star Wars épisode 7, enfin vraiment tout ce qui concerne. Et chaque fois c'est fait de telle manière que c'est bien foutu. On a aussi des dioramas qui sont faits notamment
avec des paysages et tout,
des paysages. C'est très minutieux dans la façon dont c'est fait.
Alors les dioramas, j'ai l'impression qu'ils sont faits avec des figurines Hot Toys.
Alors ça je pourrais pas te dire.
Des poupées 30 cm articulées avec des vrais vêtements. C'est l'impression que ça me donne.
Ouais, en tout cas c'est bien fait hein.
C'est alors, pas forcément que du Hot Toys, parce qu'il y a aussi un diorama,
y a de la grosse statue.
Même il y a un diorama aussi fait dans le palais de Jabba, où c'est des petites statuettes qui sont 5 cm, mais ça permet justement d'avoir une vue d'ensemble de ce palais assez impressionnant, où il y a la fameuse trappe où en dessous il y a l'or encore. Et du coup c'est vraiment bien. Et ça coûte, je crois, ça coûte 15 euros quand même, mais ça vaut le coup.
Ils font un tarif spécial pour les profs ou pas à l'entrée?
Alors, oui, c'est
gratuit pour vous.
Vas-y avec tes élèves.
Tu viens avec tes élèves et tu dis regardez l'univers Star Wars.
Comment on construit un blaster? Alors, c'est facile, regarde. Hop,
et donc, ça se situe où exactement?
Ça se situe à l'expo Lafayette Drouot. Ouais.
En 44, c'est un très bon chiffre.
Qui est pas très loin d'Opéra, et franchement, c'est très facile d'accès, pas loin du bureau non plus.
Il faut aller chez nous, tout à fait. Et c'est en prolongation jusqu'au 4 mai, d'après ce que j'ai vu sur le
site. Il faut vous dépêcher, mais ça vaut le coup si vous êtes amateur de la saga Star Wars. Je ne peux que vous la conseiller.
Moi, ce qui me la coupe le plus, c'est les décors. Je trouve. Notamment les panneaux de contrôle d'intérieur de l'Étoile de la Mort.
Et d'Internet.
Ça, c'est génial.
Parfait. Bah voilà, on a fait tout le tour. Hein. C'était un podcast assez long, mais voilà quoi. On a fait le tour de l'actu, qui est pas forcément ultra chaude.
Faut attendre que le 3 arrive.
Il y a quand même des choses à dire. Et le 3 va arriver évidemment. Il y aura encore plus de choses au fur et à mesure qu'on s'en rapproche.
Ah, je peux en profiter pour remercier Square Enix d'avoir pris le créneau de Sony.
Génial. On va
parce
être bien
je suis ravi franchement de savoir qu'on va enfin passer des nuits blanches.
Ouais.
Merci. Vraiment, c'est super sympa.
On s'était dit enfin pas de nuits blanches pour cette E3, ça va être génial.
C'est super sympa. Votre créneau de 18h l'année dernière était mieux, hein, mais bon.
On va rajouter toute la clique, vous inquiétez pas.
Je me dévoue, moi je suis plus de la nuit que du matin.
Bah c'est parfait.
Parfait, tu prendras ma place. Merci, voilà.
Merci, salut. Et bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast 496, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est
celui-là, exactement. J'ai eu un doute parce que j'ai l'impression qu'on a traversé le temps là, donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci à tous. Plus
merci,
Genuine,
merci.
Et Poufi la technique, comme toujours. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le podcast 497. Voilà. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, jouez bien et mangez pas trop de cochonneries.
Ouais.
Évidemment.
5 fruits et légumes.
Mangez des légumes surtout.
Mangez des légumes.
5 fruits et légumes par jour.
Allez, à plus tard. Merci à tous. Ciao,
salut.
Ciao.
Salut.